I've got a new canon. Littéralement, j'ai un nouveau canon. Chante la chanson. Pas de nouveau canon ici. C'est toujours le même. Je m'en sers juste un peu plus en ce moment. Qu'il est con. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche. C'est mon premier stream de la journée. J'aurais pu streamer ce matin sur l'Iran et je me suis dit, plus on va attendre et plus on va avoir des choses à se dire sur l'Iran. C'est le comme la grosse actu du jour et j'allais pas faire deux streams sur le sujet ce dimanche. Je me suis dit, ok, bon, j'attends 20h, on va avoir un max, d'infos quoi. Voilà. Sachant que salut Kevin08, merci pour le soutien que tu donnes à la commu. Tiens, c'est pour toi, c'est un cadeau.
Et oui, ça méritait, il a pris de l'argent.
Et donc, voilà. Donc, moi, c'est une actu que je vais découvrir avec vous, parce que vous savez que je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, je regarde pas les chaînes d'info en continu. Donc, on va aller voir le Parisien de ce matin. On va voir le Monde qui est sorti cet après-midi, daté de dimanche lundi. Et puis, on va aller voir sur les sites internet d'info, le Figaro.fr, Libération.fr, Mediapart, on va aller voir aussi. Ouais, puis j'avais des postes à faire cet après-midi. J'avais des postes aussi à faire, mais vite fait, hein, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Mediapart, un bon article, bon, ça m'étonne pas. Voilà. Mais j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Non, mais blague à part, les trucs dont vous parlez, là, les postes sur le réseau du Chétan, c'est rien. Non, aujourd'hui, j'ai fait vraiment des trucs de dingue. J'ai fait des trucs, mais des trucs que je peux pas raconter, mais j'ai fait des trucs... Là, les trois petits posts que j'ai fait sur X, c'est de la roupite sans sonnet. Ça se dit, ça? Enfin bref, c'est rien du tout. Merci, Bricole Tout. Oh, ça fait plaisir, là, ceux qui m'écoutent en podcast audio, en vrai. Ça fait plaisir. Et donc, j'ai fait un gros truc. Je peux pas vous raconter. Voilà. J'intimide personne. Voilà. Donc là, j'ai fait un gros truc. Et puis dans les prochains jours, n'oubliez pas, dans les prochains jours, j'annonce mon plus grand projet depuis des années. Voilà, et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà, et c'est entre maintenant et fin de semaine prochaine. Voilà, mon plus gros projet de ces dernières années, quoi. Pas de ma vie, mais ces dernières années. Voilà, je ne lis que rien, je ne lis que rien. Voilà. Non, je réponds pas, parce que si je réponds non à des trucs, ça resserre le champ des possibles. On est d'accord que quasi personne n'est au courant. MMG, je te confirme. Je crois que j'ai rarement gardé un secret de façon aussi resserrée, quoi. Il y a très peu de gens qui savent. Bon, mais ça, on en parlera les prochains jours. Mais vous verrez, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est un projet positif. Hein. C'est un truc super. C'est un truc, vous allez dire, ouais, génial. Franchement. Voilà. Mais je vous dis pas quoi. C'est pas un truc. Interview de Jennifer Lopez? Je dis rien. Je dis rien. Salut, Quitter. Comment ça va, vous? Parce que là, on va se prendre 2-3 heures sur l'Iran. On va se prendre 2-3 heures sur l'Iran. C'est une info un peu. C'est passionnant et c'est essentiel ce qui se passe. Voilà. Donc, d'abord, dites-moi si vous avez passé un bon week-end et on démarre. Est-ce que Joe sait? Oui, Joe sait. C'est mon petit cercle qui est au courant. Bien sûr que Joe sait. Si je dis pas ça à Joe, je dis ça à personne, quoi. Ouais. Un peu trop de temps sur Twitter, mais bon week-end, me dit Sugar. Pas trop passé de temps sur X. Hein. Je suis un peu accro à l'info sur l'Iran, ça a un peu pourri mon week-end, dit Elimac. Bah, être accro à l'actu, en soi, c'est pas mal. Ça veut dire que tu te préoccupes de comment va le monde, quoi. Donc après, il faut faire attention à la dose pour que ça ne t'impacte pas au niveau de ton équilibre, ta psychologie, ta santé mentale. Bon anniversaire, Matt Le Basque, pour les 40 ans. Malade, le vrai Simonade, force, force, force. Non, Chris, pourquoi tu dis ça? Chris dit, je dois aller à Bruxelles mardi, j'ai peur d'un attentat perso. Quoi, le risque terroriste augmente du coup? Écoutez, on va voir s'il y a des choses là-dessus. Ok. J'ai passé la journée à bosser en regardant Altair sur Resident Evil Requiem. Pas mal. Bon, moi, Michou lui demande, excellent week-end, toi. Excellent week-end. J'ai passé, premier degré, un merveilleux week-end. Un des très beaux week-ends de ma vie. Mais je le dis premier degré. Il y a nos trolls. Certains vont me dire, mais non, c'est pas vrai. On a Internet, chouchou. J'ai passé un des plus beaux week-ends de ma vie. Hein, mais pour des raisons que je peux pas vous expliquer encore. Mais que je pourrais peut-être vous en parler bientôt. Voilà. Est-ce que c'est en lien avec ton fabuleux projet qui va tuer le game ? En partie. En partie. Donc j'ai passé un week-end merveilleux, premier degré. Tu as trouvé une nouvelle amoureuse ? Ah non, ça serait pas une bonne nouvelle, ça. Ah non, non, non. Ah non, Hélène, c'est l'amour de ma vie. Hein. Point, retour chariot. Alors, on parle pas de moi, on parle de vous. Vacances avec les enfants, me dit Popkick. J'ai un peu le mal à rattraper mon retard sur les streams qui m'intéressent. 6 heures de debunk aussi. Non, non, 3 heures de debunk, 6 heures de react. Oh, mon pauvre. Alors, le debunk, il est pas trop long. Hein. Il fait 2h30, je crois. Il est marrant à regarder. Après, t'as le react qui fait 6 heures. Point d'exclamation. Ah, je vous ai fait un point d'exclamation debunk ou pas ? C'est pas sûr. Je crois pas, hein. Je vous ai fait un point d'exclamation commission, je pense. Ou react. C'est quoi le sondage ? Quel gros projet de Sam ? Saut de la Tour Eiffel, interview de Gillo, interview d'un alien. Oh, ça, j'en ai toujours rêvé, ça. Il n'y a pas de point d'exclamation debunk ? Est-ce qu'il y a un point d'exclamation commission ? Oui. Point d'exclamation commission. Yeah. Bah, je vais vous faire un point d'exclamation debunk. Ah oui, c'est important. Et création d'un groupe de rock ? C'est marrant. Le sondage penche plutôt pour la création d'un groupe. Oh, la musique. J'aimerais tellement avoir ce talent. Mm. Samuel, est-ce que tu continues à tourner des questions pour un champion ? Je vois des rediffusions, diffusions en ce moment. Oui, parce qu'avec les JO, tout ça, ils ont mis des replays. Mais depuis ce week-end, ce sont des... J'ai quelque chose dans les cheveux. Oh oui, j'ai quelque chose dans les cheveux, t'as raison. J'ai une petite poussière. Merci. C'est adorable. Les gens sont gentils ici. Et donc là, normalement, depuis ce week-end, c'est des inédits. Normalement, samedi et dimanche, c'était des nouvelles émissions. On va faire un bot. Comment ça, cheveux ? Oui, j'ai des cheveux. On va faire un bot debunk. On va aller sur YouTube. Voilà. On va aller sur YouTube. C'est où ma chaîne ? Samuel. Samuel Etienne. Commande. Voilà. Ma réponse aux accusations mensongères suite à la commission d'enquête. Il y a des vues déjà. Hein. D'abord, merci. Si moi, je peux regarder moi. T'as dormi avec ton pull ? Ça m'arrive. Ah, c'est la meilleure vie de dormir avec son pull. Attends, c'est la meilleure vie de pas changer de suite pendant 2-3 jours. Hein, on va pas se mentir. Point d'exclamation. Debunk. Hein ? Voilà. Hop, on va copier ça. Oh, attends, c'est le mieux. Hop. Le debunk. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Parce que en français, j'ai essayé de traduire. C'est démystification. J'ai mis debunk. Hein, qui est rentré dans le dictionnaire cette année. J'ai vu que c'était rentré dans le Robert. Le petit Robert. Debunk. Et du coup, j'aime bien vérifier les... Même si parfois, j'ai un langage qui n'est pas très châtié. Je jure beaucoup et tout. Mais je suis un amoureux de la langue et de la langue française. Et donc, je suis allé voir debunk en français. Pff, démystification. C'est un joli mot, mais... Tu vois, j'ai mis debunk. Clarification. Oui, mais... Debunk, c'est vraiment c'est analyser une information pour voir si elle est vraie ou faux. Débunker une fausse information. Enfin, c'est, voilà. Et donc on peut démystifier une fausse information. Déconstruction, oui, mais c'est on approche, mais on n'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça quoi. Mais Kevinis, tu l'as déjà dit. Ah ben non d'ailleurs tu viens seulement. Ah c'est, oui, c'est ça, oui. Mais tu vas le dire toutes les 9 minutes ? En plus, t'as l'air gentil, en plus. C'est marrant. Ah, t'as picolé ? T'as pris un apéro ? Create. Ok, on va essayer. Point d'exclamation, debunk. T'as le droit, hein ? C'est le week-end, hein ? Ça marche, je crois. Ouais. Ok, point d'exclamation commission, vous avez la règle de 6 heures. Point d'exclamation debunk, vous avez le debunk. C'est simple. Ah, bon. Alors, en revanche, ce soir, on laisse tomber la commission. Hein. Non. Commission, on en a parlé, on a beaucoup parlé. Ce soir, c'est l'Iran. On est d'accord que ça va être un tout petit peu plus important. C'est très égotique, quand même, nombriliste. On va pas parler de ça tous les jours, quoi. Hein, t'inquiète, ça va revenir. Hein. J'espère que je vais être reconvoqué. Charlie, hein, si tu... Ah oui, ah oui, les gens qui disent... mais, ah oui, d'ailleurs, vous avez les réponses à toutes les questions dans le debunk. Point d'exclamation debunk. T'as raison. Voilà. Donc, moi, si on veut me réentendre, avec plaisir. Épisode 2. Hein. Épisode 2. Let's go. J'ai proposé, hein. J'ai proposé. Donc, non, ce soir, c'est l'Iran. Et je suis sûr que c'est une info qui vous... Lily Funambule. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé cette semaine, c'est important. Bonjour Samuel. Atteinte d'endométriose et d'adénomiose, j'ai beaucoup apprécié l'article sur les douleurs chroniques cette semaine. C'est un article dans Le Monde, je crois, et avec des scientifiques qui commencent à nous expliquer qu'en fait, les femmes sont plus sujettes à certaines douleurs que les hommes. Voilà. Scientifiquement, quoi. Notamment les migraines, mais pas seulement. Le mois de mars est le mois de sensibilisation à l'endoctrinement. J'espère que tu en parleras lors d'une revue de presse. Je pense que tu as voulu dire endométriose, non? Et en fait, ton correcteur a mis endoctrinement. C'est ouf! C'est endoctrinement. C'est incroyable, saloperie de correcteur orthographique. C'est le mois de l'endométriose, le mars? C'est vrai? On est le 1er mars. Endométriose, ben, je m'en suis douté. Alors le mois de l'endoctrinement, c'est pas ici, hein, c'est sur une autre chaîne.
Et oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Alors, il y a. Mais c'est pas ici. Voilà. Donc ce soir, c'est Iran. Et puis demain matin, revue de presse à partir de 9h. Et on fera une grosse page Iran, bien sûr. Ouais. Bon, je vous lis un petit peu parce que c'est mon plaisir. On a 17 minutes d'intro. Là, on a un petit peu le temps ici sur Twitch. Alors, j'ai quelqu'un qui est allé voir mes derniers replays, qui a écrit sur Internet « Oui, j'ai écouté 10 minutes, pas une info, t'as rien expliqué. » Ah oui, c'est normal, chez nous, les intros, ça dure très longtemps. Très longtemps. Bon, c'est une demi-heure. Hein. Voilà. Usu Capion, je suis là depuis ce matin. Oh, désolé. Mais j'ai épinglé un message ce matin. Vous savez, quand je stream pas, j'épingle un message toujours et je dis les gars, ce matin je suis pas là, je serai là ce soir, toujours. Il faut venir, vous venez sur la chaîne et en haut du chat vous avez un message qui dit quand je stream, toujours. Mais c'est pas au feeling, hein, c'est quand c'est, je vous dis. Hein. Merci à Toria pour ton message qui me touche beaucoup, vraiment. Dernière info, les bombardiers B2 Spirit participent à la guerre aérienne contre l'Iran et pilonnent des grottes de missiles souterraines. Oh, des grottes souterraines de missiles, du coup. Ok. Besoin d'un conseil avec tes enfants, comment parles-tu des informations, notamment celles de ce soir, sans les brusquer? Bah, tout dépend de l'âge de l'enfant. Mais là, mes enfants sont un peu jeunes encore. 6. Hein. Tout juste 6. Depuis quelques jours. 9. Oui, Malo, il aura 10 en août. Malo, il reçoit le journal, le petit quotidien là, tous les jours, qui parle d'actualité et qui parle même de sujets graves, mais avec en faisant très attention aux mots utilisés. Le petit quotidien, on en avait parlé, c'est un journal pour les enfants dont le contenu est relu par un enseignant. Voilà. Oui, un truc comme l'Iran, à un moment, il n'est pas impossible qu'il y ait un petit article. Mais Solal, par exemple, 6 ans, c'est trop tôt. Tu n'as pas la peine de parler de ça. Il faut préserver un peu les enfants de ça, quoi. Si Malo me pose une question sur l'Iran, j'essaierai de lui expliquer les choses tranquillement, quoi. Ouais, il faut les protéger. C'est une vraie chose. Merci beaucoup, Urto. Ça fait plaisir, ça, vous voyez. C'est un peu ce qu'on essaie de créer ici comme espace de discussion. Il y a Orto qui écrit, hello, même si je suis souvent pas d'accord avec tes idées, et moi j'aime bien qu'on soit pas d'accord avec moi, je te souhaite beaucoup de courage dans toutes tes discussions intenses sur Twitter. J'aime bien ça, moi. Vous êtes, j'aime bien l'idée de pas avoir une communauté homogène et des gens qui pensent parfois radicalement pas comme moi. J'adore ça. Je suis sûr qu'on est tous suffisamment intelligents pour réussir à le faire, quoi. Sans que ça parte. Tiens, mais je bug là, non? Ah, il y a eu un petit bug sur le stream, là. J'ai l'impression que j'étais. On va me censurer ou quoi? Non? Non, ça. Et moi, je suis persuadé qu'on peut faire ça. Moi, il y a des idées avec lesquelles je suis pas d'accord, quoi. Mais les habitués de cette chaîne savent qu'ici, on peut parler de tout et qu'il y a des gens qui sont radicalement pas d'accord avec moi. Et ils sont là et on en parle ensemble, tous les jours, à condition de le faire à peu près correctement, quoi. Merci, j'ai remercié aucun sub depuis le début de ce stream. Désolé. Bassias, merci pour les 5 abonnements offerts à la commune. Tu régales, merci de ton soutien. Yamaraja67 pour le 29e mois. Mumured pour le 31e mois. Arceus pour le Prime. Ganguiz pour le Prime. Lilou, vous savez qui, comment vas-tu? Merci pour le 35e mois. Merci Excelou pour le 53e mois. Merci Diesel. Merci Dezer. Merci Kaboja. Merci Onaïs. Oui, c'est ça, Onaïs. Merci Adouiren. Merci la Pompas. C'est pas la Bombas, c'est la Pompas. Merci Idéon. QDM, Clem, Mande Chocolat, Laetitia, Camille à l'instant pour le 5 abonnements à la commu. Merci Camille. On pourrait faire un sondage sur les affinités politiques des viewers, je suis sûr que ce serait très varié. Oui, je pense, oui. Waouh, tu vois, comment parler de la guerre aux enfants? Julien écrit dans le chat, je me souviens de la guerre du Golfe en 1991, j'avais 10 ans. Je me souviens avoir chialé au petit déjeuner parce que j'avais peur que la guerre arrive jusqu'à nous. Attention dans la manière dont on parle de l'actualité aux enfants, bien sûr. Force DNA pour ce soir et bon anniversaire demain. Synopsie, message engagé de ma part, mais je n'aime pas trop que les gens se lancent des missiles. Je ne sais pas si c'est le même journal, mais j'avais ce journal quand j'étais petit, dans les années 90. Liquid Snake, le petit quotidien, mon petit quotidien. C'est le même journal, il n'a pas changé. Il est génial ce journal. Lilou, vous savez qui? Je suis bien content pour Raphaël. Lilou, vous savez qui nous a tenu au courant de son petit Raphaël, hein, qui a reçu des soins très lourds, hein, Lilou, et qui reprend l'école demain après 2 mois de soins, un peu stressé, mais content de voir ses copains. Lilou, vous savez qui? Si ton petit loup est pas couché encore, 20h27, n'hésite pas à lui dire qu'on pense bien à lui, qu'on lui envoie plein de force et qu'il va avoir une super entrée demain et que ça va très bien se passer. Et que c'est un warrior et qu'on est très fiers de lui. Vous pouvez envoyer un max de cœur à la famille de Lilou. L'Iran aurait touché une base française, on va se pencher là-dessus dans un instant. Ok. Ok. Et si on démarrait cette... revue de presse, soirée Étienne spécial Iran. Vous voulez qu'on aille voir les infos? Ok. Moi, ce que je vous propose ce soir, on va commencer par Le Monde. Et puis, on va se promener. Et on va se promener comme ça, un petit peu dans les infos, et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ok. Il est où mon sommaire? Je vais même faire un petit sommaire, mais je vais le faire en live. Ok. On va faire un petit sommaire en live pour que les gens sachent où on en est. On va écrire bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans la soirée Étienne. Donc cette soirée même. Cette soirée spéciale Iran. Voilà. Voilà. Regardez comme c'est beau. Hop, incroyable. Moi, je propose qu'on commence par Le Monde, qui est sorti cet après-midi. Alors, donc, qui est sorti en début d'après-midi, donc ça veut dire qu'il manque des infos. Il manque des infos, mais c'est le dernier quotidien qui est sorti. Après, on ira voir le Parisien Dimanche, qui est sorti ce matin, qui a fait un nombre énorme de pages. Non, Sugar, il est sorti... Ah, il est sorti hier après-midi, tu crois? Ah, t'as raison, Le Monde est peut-être sorti hier après-midi. Et oui, on va aller voir ça, mais s'il est daté de dimanche, c'est qu'il est sorti hier après-midi, t'as raison. Et oui, t'as raison. Et oui, c'est dimanche, c'est Le Monde qui est sorti samedi après-midi. Ouais. Bon, on ira. Ben, on commencera par Le Monde, on ira lire Le Parisien, et après on ira sur Internet trouver plein d'infos. Et après on ira voir le live du Monde, qui est très bon, Scabourse. Live du Monde, c'est un espèce de fil avec les dernières infos comme ça en ligne, c'est plutôt bien foutu. Ouais. T'as rajouté Mediapart? Oh là là, Boubou, t'as rajouté Mediapart, c'est incroyable. Ok. Pourquoi tu ne regardes pas les lives des sites des journaux? Si, je le fais. Mais les lives des sites des journaux, c'est de l'info brute. C'est 2-3 lignes pour la dernière actu. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, l'info brute, vous l'avez, vous n'avez pas besoin de moi. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul et de mettre un peu de sens dans tout ça, de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Donc le fil m'intéresse aussi. Notamment, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Quand est-ce qu'on a fait Hier soir, on a fait. On a bien parlé de l'Iran, hier soir, c'est ça. Hein. Hier après-midi. Ouais. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je dise à Vincent qu'on fait ça. Je vais mettre ton t-shirt, j'ai chaud. Hello. Vincent, c'est le garçon qui met toutes mes presse en podcast. Comme ça, on la postera demain matin. Ok. J'ai visité la salle de rédaction du Monde il y a peu de temps. J'avoue que grâce à tes lives, ça a pris une toute autre dimension. Voilà, je suis très admiratif de la presse écrite, moi. Vous le savez, hein. C'est un peu mon dada, quoi. J'aime ça. Alors, les amis, 26 minutes d'intro. 1er mars de 2026, dimanche. Allez, on essaie de comprendre ce qui se passe en Iran. Allons voir du côté du Monde pour commencer. Je vous ai mis tous les articles du Monde de côté. En tout cas, dans l'édition PDF du Monde. Et tout au long de la soirée, on va se rapprocher des dernières infos. On commence par les plus anciennes et plus on avancera dans la soirée et plus on ira sur les dernières infos. Voici la une du Monde dont je vous parlais. Voilà. Bah, encore un bug de carte graphique. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, je vous recrée la scène en 2 secondes, ne vous inquiétez pas. C'est un boîtier qui est un peu fatigué. Périphérique Blackmagic, périphérique Decline 4, let's go, oui. Pas s'énerver. Voilà le Monde. Avant, ça me prenait une heure hein, pour comprendre ce qui se passait et puis tout réparer. Voilà. Ingénieur informaticien. Ça, c'est la formation étoile, ça. Voilà. Ok. On va commencer donc par Le Monde et on va en faire même un titre. On va être bien scolaire pour prendre le temps, ajouter un sujet. Voilà. Voilà. Israël et les États-Unis frappent l'Iran, Le Monde. Hop. C'est parti. Merci Loudaok, merci à toi. Ok, on commence par les infos les plus anciennes. Les armées israéliennes et américaines ont donc frappé samedi 28 février de nombreux sites à Téhéran. Excusez-moi, un petit problème technique. Ok. C'est rien ça. Peut-être demander à Joe de me changer la carte d'acquis par contre. Elle est un peu fatiguée celle-là. Bougez pas. Ah mais non, je suis bête. C'est moi, c'est parce que j'ai zoomé. Oh là là. Ah non, c'est pas le problème, c'est pas le matos qui est problématique. C'est le streamer. Oh là là. C'était moi qui zoomais. Oh là 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 là, ne vieillissez pas. La vieillesse est un naufrage, je vous l'ai déjà dit. Aïe aïe aïe. Ok. Donc, les armées israéliennes et américaines ont frappé samedi de nombreux sites à Téhéran, mais aussi à Isfahan, à Qom ou à Tabriz. Nous allons détruire leurs missiles, anéantir leur industrie balistique, nous allons anéantir leur marine, a assuré Trump. La question, c'est quels sont les objectifs de guerre des États-Unis et d'Israël. C'est la question, bien sûr, que tout le monde se pose. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ensuite, bien sûr. Le président américain a appelé les Iraniens à se soulever de nouveau contre le régime. L'heure de votre vérité, de votre liberté est proche, a-t-il ajouté. Voilà. Rappelons que le président américain avait déjà tenu ses propos quand les Iraniens s'étaient soulevés, en laissant entendre qu'une intervention était proche, hein, et que les Iraniens avaient peut-être été encouragés à descendre dans la rue, sauf qu'il n'y avait pas eu d'intervention militaire américaine. Le ministère de la Santé iranien a placé les hôpitaux en état d'alerte, tandis que le site de l'agence officielle de la République islamique était piraté. C'est vraiment les infos les plus anciennes. Alerte qui ont sonné en tout Israël après détection de salves de missiles iraniens. Voilà. Là, ces infos brutes du premier article ne nous intéressent pas. Elles sont trop anciennes. Hein. Elles datent d'hier. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être les premiers articles d'analyse qu'on a ici, page 4, dans Le Monde. Et pas du tout, d'ailleurs, parce que ça, c'est sur la dissuasion. Ok, c'est sur autre chose, c'est sur le discours sur la dissuasion nucléaire qui arrive demain. Ok, hop, on zappe Le Monde, on va sur Le Parisien. Les infos sont vraiment trop anciennes, c'est celles qu'on pouvait avoir littéralement déjà hier après-midi. Ça, c'est Le Parisien de ce matin. Je rajoute un titre. Voilà. Ali, on va dire Khamenei éliminé, puisque c'est la une du Parisien. Donc Ali Khamenei, c'est le guide suprême de la République islamique. Ok. Le Parisien et c'est parti. Ok. On va faire une jolie mise en page parce que Le Monde n'a pas le même format que Le Parisien. Voilà, c'est les petits plaisirs de la presse écrite. Le Parisien est le format le plus en tablette qui est le plus important. Ok. Israël et les États-Unis. Dans les premières heures, je sais qu'il y a eu des interrogations, des doutes. Est-ce qu'on était vraiment sûr? Hein, qu'il avait été éliminé. À ce jour, je crois que c'est confirmé. Israël et les États-Unis ont donc massivement bombardé des lieux de pouvoir du régime islamique samedi. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué, a annoncé Trump en fin de soirée. Édito, voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est de commencer à avoir des analyses sur le sujet. Guide suprême, c'est quel rôle dans une république? Alors Marine, justement, c'est intéressant, il y a un article sur le parcours de Khamenei, je crois. Et si je ne dis pas de bêtises, il est là, c'est celui-ci, qui nous raconte tout le parcours de Khamenei et donc qui répondra à ta question. En finir avec les mollahs, l'espoir, voire la joie, lestée d'un peu d'amertume. En juin 2025, Israël, appuyé par son allié américain, lançait une guerre des 12 jours, vous vous souvenez de la guerre des 12 jours, réduisant en cendres une partie du projet nucléaire iranien et suscitait des sentiments mêlés parmi les opposants au régime islamiste. La dictature islamique semblait enfin vaciller, mais il a fallu pour cela l'intervention de forces étrangères. Et pour cause, hein, les révoltes, les soulèvements du peuple iranien depuis des années étaient à chaque fois réprimés et réprimés dans le sang. La fierté du grand peuple iranien, comme le qualifie Trump, en est écornée. Il y avait une partie des Iraniens aussi qui, c'est allé au moment des frappes des 12 jours, là, c'était aussi, certains avaient clamé aussi leur soutien au régime et au pays frappé par des forces étrangères. Depuis des années, l'attitude des opinions et des capitales occidentales vis-à-vis de la tyrannie des mollahs est aussi ambivalente. L'emprisonnement et la pendaison des opposants, l'asservissement des femmes, l'appauvrissement des familles, la vie au quotidien en Iran était devenue extrêmement difficile ces dernières années, avec une inflation incroyable, les prix des produits de première nécessité stratosphériques, un avenir pour la jeunesse en termes d'emploi catastrophique. Il y a beaucoup d'Iraniens qui quittaient le pays. La répression sanguinaire des révoltes, que j'évoquais à l'instant, suscite la condamnation. Les mouvements d'opposition sont soutenus, mais de là à intervenir directement pour provoquer un changement de régime, les uns brandissent le droit international, cachant parfois leur anti-américanisme derrière le refus de toute ingérence. Les autres évoquent le réalisme, s'il fallait se mêler, c'est un discours qu'on entend ça, hein, s'il fallait se mêler des affaires de tous les États autoritaires piétinant les droits humains, nous devrions alors bombarder la Russie et la Chine. D'autres encore redoutent le chaos, comme en Syrie après la fuite de Bachar al-Assad. Mais il se trouve que la République islamique ne se contente pas de martyriser les Iraniens. Elle est également une menace pour la région, à commencer par Israël, dont elle a juré la destruction. Et au-delà par le jeu des alliances diplomatiques, économiques et militaires pour l'ensemble de la planète, qui oserait déplorer sa chute si l'assaut lancé ce samedi devait l'entraîner? Oui. Est-ce que des voix s'élèvent, se sont élevées? Peut-être, on va peut-être en voir ce soir dans nos recherches sur l'actu, mais est-ce que, vous avez peut-être la réponse, est-ce que des voix se sont élevées pour regretter la chute du régime, en tout cas la mort de Khamenei? Je ne crois pas. Alors, je vois des propos ambivalents. Je vois Prince me dit ça n'est pas une guerre à proprement parler. Et puis Vereka Arknes nous dit bonsoir, bienvenue dans ce début de troisième guerre mondiale. Est-ce que tu penses que la France va entrer en guerre? Me demande Amine Patué. Je n'ai pas la réponse à cette question. Un dictateur immonde en moins, dit Amrouflar, en espérant une suite plus constructive qu'en Irak ou en Libye. Mais pour le coup, l'Iran a vraiment un potentiel fort pour arriver à une vraie gouvernance populaire, contrairement aux deux autres exemples. Ça, je l'espère. Les articles qu'on a lus ces derniers jours sur l'état de l'opposition iranienne, comme dans tous les régimes dictatoriaux, l'opposition n'a pas d'espace pour se construire, puisqu'elle est réprimée. Quand un régime comme celui-ci chute, alors je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, hein, mais je crois qu'on peut le dire, quand un régime dictatorial comme celui-ci chute, l'opposition est rarement prête à prendre le pouvoir, puisqu'elle n'a pas pu se développer. La plupart du temps, elle est réprimée à l'intérieur, elle s'exile, et donc est-ce que ce sont les successeurs, la famille du Shah d'Iran, l'ancienne monarchie, qui doit prendre le pouvoir? C'est très compliqué. Donc moi, j'aimerais te croire quand tu dis que l'Iran a un vrai potentiel pour arriver à une vraie gouvernance populaire, contrairement aux deux autres exemples, c'est-à-dire Irak ou Libye, j'aimerais te croire, mais je ne l'ai pas lu ces derniers mois, quoi. Merci la brioche aux pralines pour ton message. Merci Darko pour ton message. Et puis attention, hein, à moins que j'ai loupé les dernières infos, le régime n'est pas tombé. Hein. Et Revan Shi me dit, les dirigeants du régime sont toujours là. Et il y a des Basijis armés à chaque coin de rue. Hein. Je trouve intéressant de se pencher peut-être sur le parcours d'Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, puisqu'a priori, il est mort. C'est un papier dans le Parisien de ce matin. La République islamique décapitée, Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran depuis 1989, déjà quoi, rien que ça, apparaît à 86 ans samedi dans les frappes ciblées des Américains et des Israéliens. Un homme, ouais, ça, je suis nul en calcul mental. Ça fait combien 2026-89? Un homme à la tête d'un pays pendant 37 ans. Mais c'est surréaliste. À Paris, donc, à 86 ans samedi, dans les frappes ciblées des Américains et des Israéliens, portrait d'un théocrate à la tête d'un régime sanguinaire. C'est un papier signé Geoffroy Tomasovitch. Parce qu'ici, on aime bien quand les infos ont des sources, quand on sait d'où viennent les infos, quand elles sont assumées par quelqu'un. Voilà. Parce que le plus grand défi aujourd'hui dans notre époque, c'est de ne pas être désinformé et donc de pouvoir savoir, d'identifier d'où viennent les infos. Un journal, un journaliste, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Guide suprême d'Iran, en 8 lettres et commençant par K. Deux solutions s'offrent à l'amateur de mots fléchés, Khomeini ou Khamenei. Ces deux hommes ont marqué l'histoire de la République islamique d'Iran, fondée en 79 par Khomeini, le premier, où ces ayatollahs ont occupé le poste le plus élevé. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, c'est quoi guide suprême de la République islamique? Le poste le plus élevé, synonyme, donc dans cette République islamique, d'un pouvoir quasi absolu sur le pays. Les deux figures centrales de l'islam chiite appartiennent désormais au passé. Quelqu'un me dit qu'Elisabeth II en Angleterre a fait plus longtemps. Mais ça n'a rien à voir. Je sais que tu le dis en rigolant. Mais ça n'a rien à voir. Élisabeth II n'était pas au pouvoir. C'est une monarchie constitutionnelle. Ali Khamenei, qui avait succédé à Rouhollah Khomeini, mort le 3 juin 89, n'est plus de ce monde. Le guide suprême a connu une mort bien plus brutale que son prédécesseur. Et Ami, qui avait été emporté par une hémorragie interne à 86 ans, puisque Ali Khamenei a été tué au cours de l'opération. Fureur épique, déclenchée donc conjointement samedi par les Américains et les Israéliens. Une attaque qui a ciblé les plus hauts dignitaires du régime iranien, objectif au premier rang desquels se trouvait Khamenei, dont le visage est connu dans le monde entier. C'est assez étonnant d'ailleurs que un régime comme. L'Iran reste un pays puissant, hein, avec une armée alors qui n'est peut-être pas comparable à celle des États-Unis, mais c'est quand même un pays puissant. Il est assez surprenant, mais peut-être que vous avez vu des infos là-dessus. Salut Zeiker, merci pour ton soutien à la chaîne, merci pour ton follow. Comment n'a-t-il pas pu réussir à protéger son numéro 1, quoi? C'est une vraie question, ça. Hein? On s'était posé la question pour comment s'appelait le président d'Amérique du Sud là, qui a été débarqué par Trump et qui est emprisonné aux États-Unis en attendant son procès. Maduro. Voilà. Bon, on s'est déjà posé la question pour Maduro, comment ils ont réussi à le capturer aussi facilement. On sait qu'il y a peut-être eu des complicités en interne, etc. Mais on va pas comparer l'armée vénézuélienne et l'armée iranienne, quoi. Donc c'est une vraie première question déjà. Comment ils n'ont pas réussi à le protéger? Arborant le turban noir des Seyyed, à savoir les descendants du prophète Mahomet, une barbe blanche touffue et des lunettes, Ali Khamenei incarnait depuis près de 37 ans le visage de la République islamique d'Iran. L'ex-doyen des chefs d'État du Moyen-Orient en a gravi les échelons avec méthode, un parcours qui n'était pas gagné d'avance pour ce fils d'imam, né dans une famille azérie pauvre, en 39 à Meshed, qui est la deuxième ville d'Iran, pauvre mais ultra-religieuse, qui a formaté Ali Khamenei dès son plus jeune âge. Logiquement, il choisit d'étudier la théologie à Meshed, à Qom, ville sainte, où il est séduit par les idées révolutionnaires de l'ayatollah Khomeini dès les années 60. Une rencontre. Je regarde les messages, je vois plein de questions très intéressantes sur l'Iran, mais je ne peux pas m'interrompre à chaque fois parce que le propos serait trop haché, mais en tout cas, vos questions sont très pertinentes. Une rencontre déterminante. Il suit les enseignements de Khomeini. Voilà. Envers lequel il se montre admiratif, loyal et fidèle. De toute façon, dans ce type de régime, c'est l'un ou l'autre. Hein. T'es ou fidèle ou opposant, quoi. Le jeune homme s'engage activement dans la lutte contre le régime du Shah, à l'époque, hein, c'est la monarchie, avec le Shah d'Iran, alternant discours enflammés et activités clandestines. Cet engagement contre le pouvoir en place soutenu par les États-Unis, oui, et oui, petit rappel, la révolution islamique. C'est ce que dit le Parisien, et je crois que l'info est juste, est soutenu par. Non. Non, c'est le. Attends, attends, j'ai un doute sur l'Iran. 79. Non, c'est le régime du Shah qui est soutenu par les États-Unis. Je ne crois pas que. Est-ce que c'est un pays où les services secrets américains ont soutenu la révolution islamique? Je crois pas. Je crois pas, hein. 79. C'est l'inverse. Non. Parce qu'on sait que parfois les États-Unis ont pu être derrière des révolutions via les services secrets, mais pas en 79, pas en Iran. Hein. C'est ça. Hein. Ils étaient pro-Shah. Exactement. Donc, engagement contre le pouvoir en place, qui lui vaudra de passer une grande partie des années 60 et 70 derrière les barreaux, donc Khamenei, la prison. Année charnière de l'histoire de l'Iran, 79 et sa révolution islamique. Font basculer Ali Khamenei dans le camp du bien, pas celui des vainqueurs et des dominants. Le Shah est parti en exil, les religieux ont les coudées franches, supportés par un peuple avide de changement, même si une frange des Iraniens, dont certaines élites, optent eux pour le départ à l'étranger. En 79, sur les ruines encore fumantes du système pahlavi, donc le Shah, il est bientôt bien trop tôt pour déchanter. Revenons à Khamenei. Le Shah, bah, c'était le roi. Le Shah, c'était une dynastie, c'était une monarchie. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez un descendant du Shah, je crois même que c'est son fils, qui prétend à incarner le pouvoir aujourd'hui en Iran. Certains en parlent dans le chat, c'était une dictature aussi, hein, tout à fait. Hein. C'était absolument pas une démocratie, hein, c'est une monarchie. Hein. Et le fils de l'ancien chat lui postule à revenir au pouvoir, dit-il, pour une période de transition, avant de rendre le pouvoir au peuple. On avait lu il y a quelques semaines des articles sur lui. Voilà, donc voilà. Alors certains disent que il est adoré des Iraniens, d'autres disent que c'est totalement fabriqué par ses proches, notamment sur les réseaux sociaux, avec un peu de manipulation derrière ça, qui n'est pas si populaire. Enfin, il y a tout un débat autour du fils du chat d'Iran. Voilà. Khamenei, revenons à Khamenei. On parlera bien sûr du fils du chat d'Iran dans les prochains jours. Khamenei gravit rapidement les échelons, vice-ministre de la Défense, chef des gardiens de la Révolution, président de la République de 80-89, succédant à Mohammad Ali Khadjaï après son assassinat au cours des années 80, deux événements marquants. 80, le guide suprême lui confie le rôle clé de diriger les prières du vendredi à Téhéran. L'année suivante, il survit à une tentative d'attentat dont il réchappe en martyr, mais pas sans séquelles, Ali Khamenei perd en partie l'usage de son bras droit. Depuis cet attentat, Khamenei vivra toujours dans la peur du complot, sortant très rarement d'Iran. Je vous lis. À la mort de Khomeini en 89, il est donc désigné guide suprême de la révolution islamique. Alors moi qui ne connais pas très bien l'histoire de l'Iran, je le confesse tout à fait, c'est une histoire que je connais très mal, je me rends compte que depuis 79, l'Iran n'a eu que deux patrons, quoi. Deux hommes seulement. Donc Khamenei est désigné guide suprême de la révolution islamique, nomination tout en douceur pour celui qui avait déjà atteint les sommets du pouvoir en présidant le pays pendant 8 années. Héritant du poste le plus puissant de la République islamique, supervisant, réponse à la question, mais c'est quoi le guide de la République islamique, supervisant les forces armées, la justice, la politique étrangère, ce père de 6 enfants, féru de Victor Hugo et de poésie, va incarner la continuité idéologique du régime, notamment face aux tensions internationales et la confrontation idéologique avec le grand Satan américain, puisque c'est comme ça que l'Iran désignait les États-Unis. Et surtout, l'État d'Israël, son ennemi juré dont il souhaite l'éradication. Sous sa direction, le corps des gardiens de la révolution, a étendu son emprise sur le pays. On a beaucoup dit que le corps des gardiens de la révolution avait formé une économie parallèle et que la réalité du pouvoir économique, notamment du pays, c'était les gardiens de la révolution qui les tenaient entre leurs mains. Son économie a accru son influence au-delà des frontières de l'Iran, notamment en Liban, en Irak, en Syrie. Ça, c'est intéressant. Ce qui arrive, là, je ne l'avais pas vu. C'est de cette nouvelle position... Écoutez, c'est vachement intéressant. C'est de cette nouvelle position de guide suprême, Khamenei, qu'il assiste à un événement qui va le marquer profondément, la chute de l'URSS. L'échec de Gorbatchev, la perestroïka, est pour lui une révélation, tout début de libéralisation d'un régime d'assouplissement, mène à la décadence et à la vassalisation par l'Occident, aussi évident que 1 et 1 font 2. On parlait des gardiens de la Révolution, il y a Alban qui dit « pas impossible que les gardiens de la Révolution prennent la place du régime vacillant ». Le religieux ne cessera donc de tuer dans l'œuf toute velléité de modernisation et, ou de libéralisation, partisan d'une ligne très dure en matière de religion. Le credo de Khamenei, nous explique l'article, c'est que tout assouplissement du régime, toute libéralisation, notamment des règles sociales ou religieuses, puisque la République islamique, par définition, c'est un pouvoir théocratique, c'est-à-dire que le politique tient sa légitimité de la religion, ce qui, évidemment, n'a aucun sens. Et donc lui, à un moment, constatant la chute de l'URSS, il en vient à cette conclusion, il ne faut jamais assouplir, quoi. Pouvoir de droit divin, tout à fait. Pouvoir quasi absolu, mais pas sans obstacle. Les 3 décennies du successeur de Khomeini ont été tragiquement émaillées par une succession de crises de contestation. On peut citer 2009 et le mouvement vert lors de la réélection jugée frauduleuse du président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, je me rappelle de ça. On se rappelle de 2022 et de ce mouvement réprimé dans le sang, femme, vie, liberté, déclenché après la mort en prison, en cellule de police précisément, je crois, d'une jeune femme, Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle avait mal mis son voile. Elle meurt en cellule. Tout récemment, le guide suprême qualifiait ces tentatives de coup d'État, hein, quand les Iraniens sortaient dans la rue pour dénoncer ce pouvoir, hein, coup d'État, les manifestations monstres de janvier contre le pouvoir de le marasme économique, des mots très durs justifiant une répression sanglante. On a passé des heures ici à parler de la répression sanglante du soulèvement populaire des Iraniens et des Iraniennes. Grand orateur, connu pour mener une vie sans faste, Khamenei vivait dans une résidence relativement modeste dans le centre de Téhéran. Il s'était réfugié dans un lieu secret lors de la campagne de frappe lancée en juin dernier par Israël. Placé sous haute protection, ses apparitions publiques n'étaient plus diffusées en direct depuis la guerre des 12 jours. Ce samedi, cette protection s'est révélée insuffisante. Vraisemblablement préparée depuis de longues semaines, l'opération ciblée a réussi. Le guide suprême a été supprimé par ses pires ennemis. Moi, je repose la question. C'est toujours compliqué d'imaginer comment un pays, un pouvoir qui n'est pas comparable par sa puissance aux États-Unis, mais un pays puissant comme l'Iran n'arrive pas à protéger son numéro 1. Bon, sans doute qu'en termes. Je suppose qu'il y a eu un travail de renseignement de la part des Américains, des Israéliens, qui a pu mener à cette frappe, décisive, quoi. Je vous lis, je fais une petite pause avant d'aller plus loin dans les articles. Regardez, le Parisien ce matin a consacré 7 pages, 7 pages, la une plus 6 pages à l'Iran. Clama Coquine nous dit oui, le renseignement a eu vent d'une réunion et ils ont eu décidé d'attaquer. Merci beaucoup, Buzzer, c'est gentil. CIA plus Mossad, me dit Captain Grobert, est peut-être trop grande confiance en sa propre supériorité. Alors t'inquiète, Moon Police, Trump, on en parle beaucoup ici et ta question est très pertinente, bien sûr. Et ne t'inquiète pas que ce soir ou demain, dans les prochains jours, le rapport de Trump au pouvoir et ses intentions, on essaie de les décrypter quasiment au quotidien ici. Alors je vois que certains parlent des deux régimes, le régime du Shah, la monarchie, qui est une dictature, et la République islamique. Je vois qu'il y a des échanges entre vous. Il y a Amrouflar qui répond à Togmar, lit jusqu'au bout, le régime du Shah avait beau réprimer toute opposition politique, il n'avait pas l'effet de coercition sociale qu'a amené la théocratie de Roumanie. Les deux sont immondes, ces deux régimes, mais ne sont pas égaux. Je vous lis. Alors, que dit cet article, page 4 dans Le Parisien, dimanche de ce matin? J'écris Ramaney, j'écris. C'est Ramaney. Et vous me dites rien, vous m'engueulez pas. Mais j'écris Ramaney. Mais c'est pas Dieu possible. C'est Ramenei dans le sommaire. Et vous me dites rien. Mais engueulez-moi quand vous voyez que je raconte n'importe quoi comme ça. Hein. Ramenei. C'est pas Dieu possible. On n'avait pas vu. Bon, bah ça va, c'est que vous m'écoutiez. Non, non, mais c'est moi qui suis nul. Alors, article du Parisien ce matin sur les premières frappes. Moi, j'avoue que je n'ai pas suivi cette actu de près, donc je le lis aussi un peu pour moi. Et la foudre s'est abattue sur l'Iran, alors que les négociations entre Washington et Téhéran étaient vouées à l'impasse, parce que c'est intéressant de rappeler qu'il y avait des négociations entre les États-Unis et Téhéran sur le programme nucléaire iranien, hein, pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, mais c'est des discussions qui durent depuis des décennies. Merci Luzé pour la force que tu donnes à la chaîne, merci pour ton follow. Alors que les négociations entre Washington et Téhéran étaient vouées à l'impasse, une opération militaire d'ampleur a visé 500 sites, provoquant une escalade régionale sans précédent. Merci Salamèche. Samedi matin, les Iraniens commençaient leur semaine de travail. Alors ça, cette phrase est un peu étrange pour moi qui ne connais pas l'Iran, mais samedi matin, équivalent du lundi en France. Donc là, je ne vais pas m'arrêter sur cette info parce qu'elle me perturbe. Le samedi matin, c'est le lundi en France.
Ok.
Alors déjà, voilà le pays, quoi. T'arrives le samedi, tu te dis que c'est le week-end. Bah non, c'est le début de la semaine. Là, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas savoir. Waouh. Ok, d'accord. Bon, samedi matin, équivalent du lundi. Parce que vendredi est un jour saint. Vendredi, c'est le dimanche. D'accord, ok. Le vendredi, c'est le dimanche. Vendredi, jour saint selon la religion islamique. Je me sens tellement bête. Et vous savez tout ça. Grosse prière le vendredi, donc samedi, commencement de la semaine, comme la messe le dimanche. Oh, putain, je me sens tellement bête. Voilà. Bon, bah, c'est l'avantage de bosser sur l'actu en communauté, quoi. Voilà, tout le monde le sait, sauf moi. Merci. Moi, je savais pas ça. Samedi matin, équivalent du lundi en France, les Iraniens commençaient leur semaine de travail lorsque les États-Unis et Israël ont frappé le pays vers 10h, 7h30 en France. Les parents qui venaient de déposer leurs enfants à l'école s'empressent de les récupérer au son des sirènes d'ambulance, des embouteillages, des files d'attente devant les boulangeries se forment, terrés chez eux, les habitants de Téhéran sont bientôt priés de quitter la ville densément peuplée. Les premières explosions ont ciblé le quartier Pasteur, en plein centre de la capitale, où se trouve la résidence d'Ali Khamenei. Dans la première salve, nous avons visé des cibles de haut rang, des personnes impliquées dans les plans visant à détruire Israël, confirme une source de sécurité israélienne. La veille encore, le président américain soulignait son indécision quant à une éventuelle attaque en Iran. Bon, là, c'est du bluff, Martoni. C'est du bluff parce que Trump qui dit la veille, qui parle de son indécision, c'était décidé, semble-t-il. En même temps, c'est normal. Hein. Il va pas dévoiler ses plans à 24 heures des frappes. Quoi. Elle ne faisait pourtant plus de doute. Les négociations en cours étaient presque vouées à l'impasse. Washington exigeait de Téhéran l'impossible, à la fois un abandon total de l'enrichissement d'uranium et la diminution de la portée de ses missiles. Dernier point que la République islamique refusait d'aborder au nom du droit à se défendre. Les deux parties devaient pourtant se retrouver la semaine prochaine en Autriche. En parallèle, un tiers de la marine américaine... Alors, je savais qu'il y avait deux groupes aéronavals américains déployés dans la région. Dans la région. Mais je ne savais pas que ça représentait un tiers de la marine américaine. Le déploiement est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais même les observateurs de la région n'avaient pas prédit que Trump opterait pour l'objectif le plus extrême en cas d'intervention, décapiter le régime. Dans d'autres quartiers de la capitale, les missiles ont touché les bureaux du guide suprême, la maison de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, le QG des gardiens de la Révolution et une école, et ça nous en parlions dès hier après-midi. L'opération a fait des dizaines de morts, dont des enfants, selon des vidéos diffusées par le gouvernement iranien que le Parisien a pu consulter. J'ai vu passer sur Internet aujourd'hui une polémique. Quelqu'un en plateau sur une chaîne d'infos, je ne sais pas qui, a dit à un moment, a sorti une phrase en France, hein, en mode « bah oui, bah c'est la guerre ». Waouh! Bah, c'est la guerre. Des dizaines de morts, dont des enfants, selon des vidéos diffusées par le gouvernement iranien que le Parisien a pu consulter. Vers 18h30, le Croissant Rouge annonçait plus de 200 morts. Dans la foulée, d'autres explosions, dans d'autres villes, Ispahan, Shiraz, Kermanshah, des sites militaires stratégiques perdus dans la montagne également visés. Voilà. En tout, 500 lieux ciblés en une journée, sites de missiles, marine iranienne, installation nucléaire, le plus grand raid aérien de notre histoire, déclare l'armée israélienne. Comme souvent, les réseaux sociaux se transforment en foire aux rumeurs. Oh ! Les réseaux sociaux foire aux rumeurs ? Oh bah, ce serait bien la première fois. Amir Hatami, le commandement en chef de l'armée iranienne, aurait été assassiné. Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, éliminé. Ali Khamenei serait mort. Allégations renforcées par leur silence prolongé, très inhabituel dans ce genre de situation. La mort de l'ayatollah sera finalement confirmée dans la soirée. Des bribes de témoignages récoltés décrivent tout et son contraire sur les réseaux. Voilà. Scène de joie, mouvement de panique. En réalité, ces deux sentiments cohabitent. Le désespoir des Iraniens, qui ne savent plus comment se débarrasser d'un pouvoir aussi tenace que tyrannique, coexiste avec la réaction de ceux qui chantent sous les bombes. Un mot de la situation des Iraniens, parce que il y a quelques jours, les étudiants iraniens ont commencé à se soulever à nouveau dans les universités, à l'occasion de la rentrée du deuxième semestre, je crois. Alors que quelques semaines plus tôt, le peuple iranien étaient massacrés dans les rues pour s'être soulevés. Un courage de fou. Et quand on échangeait là-dessus dans le chat sur ce sujet, certains m'ont dit oui, parce qu'en fait, ce peuple est désespéré. Et quand on est à ce stade de désespoir, mais il ne reste plus qu'à braver la mort de toute façon, puisque la perspective de vie est monstrueuse. Pour expliquer le courage de ces étudiants. La peur se nourrit du chaos ambiant, banque fermée, pharmacie bondée, supermarché dévalisé, il règne un climat d'angoisse, d'espoir, résume un photographe iranien. Les entrées et sorties de Téhéran sont quadrillées par les forces de sécurité lourdement armées, mais les gens sont contents, dit ce photographe. Ils attendaient ce moment depuis si longtemps. Autre peur, les représailles. Beaucoup n'osent pas témoigner, par exemple, de leur joie, par crainte d'être de nouveau arrêtés. Comme pendant la révolte nationale de fin décembre, les Iraniens savent trop bien que le régime, dans son agonie, fait preuve d'une cruauté débridée. Alors, quelle différence avec les frappes? Vous savez, pendant 12 jours là, des Israéliens et des Américains, il y a quelque temps, en juin, lors des attaques surprises contre l'Iran en juin 2025, dont 12 jours, je crois. Salut Étienne, est-ce que tu penses que c'est possible que la France passe à l'action ou se fasse bombarder? Je n'ai pas la réponse à cette question. On va essayer d'échanger hein, sur ce sujet qui est essentiel, mais peut-être qu'on trouvera des articles sur la question ce soir. Hein. Je vois que vous êtes très nombreux à vous poser la question, quoi. Lors des attaques surprises contre l'Iran en juin 2025, les 12 jours donc, Israël avait visé des sites militaires et nucléaires ainsi que des scientifiques et hauts gradés de l'armée. Les frappes préventives, parce que c'est comme ça qu'elles sont baptisées de samedi, d'hier, semblent plus ambitieuses. Les politiques sont ciblées, comme le ministère du renseignement, le pouvoir judiciaire et la résidence ultra sécurisée de Khamenei. Dans sa riposte aussi, l'Iran change d'échelle. Cette fois, il emporte la région avec lui. Le pays a fermé le stratégique détroit d'Ormuz. Ces missiles visent Israël, mais aussi les pays qui accueillent des bases américaines, comme le Qatar, Bahreïn, ou les Émirats Arabes Unis. Dubaï voit son luxueux hôtel Fairmont sur l'île Palm Jumeirah dévoré par les flammes. Un drone a fait des blessés légers à l'aéroport de Koweït. Oman, seul médiateur qui semble y avoir cru jusqu'au bout, est épargné. Là, on parle de frappe iranienne, bien sûr, hein. Si ces États décident de répliquer, le conflit entrerait dans une autre dimension. Il ne s'agirait plus d'une guerre entre trois pays, mais d'une guerre régionale. Donald Trump vient de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient, souligne Jonathan Piron, qui est un spécialiste de l'Iran. Lui qui est arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin aux guerres américaines prend le plus grand risque de sa présidence, estime le chercheur en parlant de Trump. Les Israéliens poussent à la déstabilisation en Iran, mais on ne sait pas vraiment quel est l'intérêt des États-Unis, estime cet historien. Pour qui, c'est son avis, l'Iran ne représentait pas une menace immédiate. Alors, la réalité de la menace iranienne, c'est-à-dire du programme nucléaire iranien en capacité notamment de doter le pays de la bombe atomique, cette menace, elle est discutée depuis des dizaines d'années. Il y a ceux qui disent que l'Iran était très loin de pouvoir se doter de l'arme atomique. D'autres affirment au contraire que c'était imminent. Voilà. Sachez que ce débat existe. Cet historien, il estime qu'on ne voit pas trop quel est l'intérêt des États-Unis dans cette opération. Voilà. Et il déclare aussi, du point de vue du droit international strict, c'est une agression. Alors, une des grandes questions, c'est quel pouvoir maintenant, à supposer que ce ne soit pas les gardiens de la révolution, comme quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, qui prennent le pouvoir finalement derrière Khamenei. États-Unis et Israël ont déjà un nom en tête pour succéder à Khamenei, Reza Pahlavi, fils du Shah déchu, hein, le fils du roi, de l'ancien roi, hein, exilé aux États-Unis depuis plus de 45 ans, bah, depuis 79 je suppose. Sans aucun doute au courant, il a publié une vidéo trois quarts d'heure après le début de l'opération. Je vous demande de rester chez vous pour le moment. Soyez vigilants et prêts à retourner dans les rues pour l'action finale au moment opportun dont je vous informerai en détail, dit le fils du Shah, sur le ton d'un chef d'État en exil. Alors moi, dans les infos que j'avais lues ces dernières semaines, il y avait un truc très intéressant, c'est que Reza Pahlavi, là, le fils du Shah, il avait fait des pieds et des mains pour être reçu par Donald Trump ces derniers mois. pour envoyer le signal à son peuple, le mec, comme si on était au temps de la monarchie, c'est affreux ce que je dis, pour envoyer le signal aux Iraniens et aux Iraniennes que c'était lui l'alternative politique au pouvoir. Et Trump ne voulait pas le recevoir. Voilà exactement, Takuna, être reconnu comme le futur dirigeant éventuel par Trump. Et Trump ne voulait pas le recevoir. Manifestement, les choses auraient peut-être changé. Ne soyons pas trop affirmatifs sur les raisons de l'intervention américaine et israélienne. Alors, tu es où, mon ami? Je t'ai perdu. Je te retrouve CH. Merci. CHRLTC. Oui, concernant les États-Unis, il y a des questions. Pourquoi, concernant Israël, bon, Israël est face à un pays qui a un régime qui a toujours juré sa destruction. Un régime qui aurait pu être doté à moyen terme de l'arme atomique, les motivations d'Israël sont assez claires. Je vous lis. Je vous lis. Le fils du chat, concrètement, c'est un étranger en Iran. Il n'a aucune implantation, aucune assise populaire, me dit Fat Charlot. Ça semble quand même peu probable. Le peuple iranien mérite des élections et pas le fils du chat qui s'autoproclame, Nawal Paris. Bah, je pense que c'est ce à quoi on pourrait tous aspirer, des élections démocratiques dans un pays comme ça pour succéder à une dictature. Mais avec quel parti? Mais avec quel parti? Le régime était une dictature, enfin, est toujours une dictature, parce qu'à ce jour, le régime n'est pas tombé, hein. On a coupé une tête, des têtes. Mais avec quel parti? Avec quel. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays. L'opposition en interne, elle est réprimée, il n'y a pas d'opposition. Donc, élection démocratique, très bien, mais avec quel candidat? Non, arrêtez avec Manuel Valls. Enfin, un parti, ça n'est pas comme ça, quoi, tu vois. C'est très compliqué. Il faudra forcément un régime de transition, dit El Giganto. Je sais pas, c'est fou. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors je disais à l'instant, attention, hein, le régime n'est pas tombé, parce que là on est déjà en train de se projeter. On est déjà en train de se projeter, mais alors quoi après la République islamique? Mais sauf erreur de ma part, le régime il n'est pas tombé là. Hein. Interview dans Le Parisien de ce matin d'un chercheur, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Une guerre à grande échelle pour conduire à l'effondrement du régime. Il estime que les secousses régionales liées au conflit en Iran actuellement pourraient être pires qu'après le conflit en Irak en 2003. Qu'est-ce qu'ils disent, monsieur? Le chercheur, donc David Rigoulet-Rose, décrypte les motivations américaines derrière cette opération. Bah, tant mieux, parce que c'était la question qu'on se posait. C'est quoi les motivations américaines derrière? Libérer la planète des dictatures? Waouh! Dans ce cas-là, il y a deux trois pays qu'on pourrait ajouter sur la liste. Est-ce que c'est une histoire de pétrole comme pour le Venezuela? Est-ce que c'est une autre raison? Quelqu'un me dit oublier Epstein dans le chat. Lisons. Comment ça, il a pas. Est-ce qu'on peut de temps en temps faire un pas de côté pour dire des bêtises et pour rigoler? Oui. L'info est tellement anxiogène que évidemment, on a le droit. Il y a Some French qui vient d'écrire dans le chat. Il a pourtant pas l'air de rigoler sur la photo. Monsieur David Rigoulet Rose. Je suis désolé. Je valide cette vanne. Parce que l'info est tellement hardcore en ce moment que franchement, un petit pas de côté, moi je dis c'est validé. Voilà. C'est vrai qu'il a pas l'air de rigoler. Et ben justement, on va l'écouter parce qu'il a l'air très très sérieux. Alors d'abord, est-ce que ces attaques sont les mêmes que celles opérées en juin? Et le chercheur dit, elles n'ont rien à voir, car il s'agit d'une opération beaucoup plus massive. Le dispositif militaire américain représente un tiers de leur flotte opérationnelle positionnée dans le secteur et près de 300 avions. C'est du jamais vu depuis l'Irak, 2003. La seule différence, là, c'est qu'on n'envoie pas de soldats américains sur le terrain. Hein, ça, Trump l'avait catégoriquement promis à son électorat, hein, pas de soldats sur un sol étranger. En quoi ces frappes sont différentes? Cette fois, c'est une guerre d'attrition, d'usure, à grande échelle, dont le but est d'écraser les dimensions capacitaires du régime et potentiellement de conduire à son effondrement interne. Ok, donc c'est pas juste des frappes pour faire disparaître le nucléaire iranien, le programme militaire nucléaire iranien. C'est pour faire tomber le régime. Ok. Son message au peuple iranien, avec la contestation étudiante qui a repris ces derniers jours, va dans ce sens. Il leur suggère de s'emparer des rênes du gouvernement à la faveur des opérations en cours. Ok, j'entends. Pourquoi cette attaque maintenant? Pourquoi maintenant? La décision de principe de l'option militaire aurait été prise il y a plusieurs semaines, mais le processus s'est sans doute accéléré au vu de l'impasse des négociations autour du nucléaire. Ok. Ok, très bien. J'entends. Pourtant, Trump semblait très réticent à frapper l'Iran. Il a probablement eu le sentiment de perdre son temps dans les négociations. Il devait penser qu'en affichant une posture martiale en juin 2025, le régime allait céder à ses exigences. Mais ça n'a pas été le cas. Donc Trump aurait été déçu par la négociation sur le nucléaire. Ok. Et les dirigeants iraniens auraient minimisé, en tentant les négos habituels qui durent depuis des décennies avec les pays occidentaux sur le programme nucléaire iranien, auraient minimisé la dimension personnelle liée à Trump, c'est-à-dire, lui demande le Parisien. D'abord, le fait que Donald veuille se défaire de l'acronyme TACO, qui a été inventé par les marchés boursiers américains. Trump always chickens out. Trump se dégonfle toujours. Il montre les muscles. Il dit qu'il va tout casser. Et puis il recule toujours. Ça, c'est les marchés boursiers américains qui ont inventé cet acronyme. Il se veut l'anti-Obama, qui avait renoncé à faire prévaloir sa ligne rouge sur les armes chimiques en 2013 en Syrie et qui était initiateur en 2015 de l'accord sur le nucléaire iranien. Il y a aussi la tentative d'assassinat dont il a été la cible. Hein, quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Ah ouais? Il y avait une tentative d'assassinat contre Trump? Menée par un agent mandaté par les gardiens de la Révolution? Je ne me rappelle pas de ça. Ça vous parle? Il y a aussi eu la tentative d'assassinat dont il a été la cible. Mené par un agent mandaté par les gardiens de la Révolution? Non, c'est pas touché à l'oreille. Touché à l'oreille, c'était autre chose. Non, l'oreille, c'était autre chose. L'oreille, c'était pas fomenté du tout par l'Iran. Non, c'était pas ça. Non, c'est autre chose. Non, j'ai pas la ref, mais non, l'oreille, c'est pas ça. Ça doit dater. Ça doit être autre chose. Non, l'oreille, c'était autre chose. Un mec qui s'est introduit chez lui il y a 2 semaines, à Mar-a-Lago, durant la campagne SAM. Le truc foireux qui s'est passé chez lui lorsqu'il n'était pas là. 9 novembre 2024. Au golf. Dans sa résidence. Ok, ah, ils sont incroyables, vous êtes incroyables. Ah, c'est cette histoire-là? Ok, très bien. Enfin, Trump a toujours en tête. Oh, nom de Dieu, j'avais oublié ça. L'obtention du prix Nobel de la paix. Mais on avait oublié. Tout à l'heure, quand on se demandait pourquoi cette opération maintenant et qu'un chercheur nous disait, mais je vois pas trop pourquoi une intervention américaine maintenant. Bah, on avait oublié. Dernier point, alors que les Iraniens sont des joueurs d'échecs, lui est un joueur de poker, il se trouve aujourd'hui contraint de faire tapis pour ramasser la mise. Quel est son objectif? Alors moi, ça m'intéresse vraiment, ça. On peut y voir une manière de se racheter vis-à-vis du peuple iranien qui l'avait incité à se soulever en janvier. Vous vous rappelez? Ça, c'était. Les Iraniens commencent à manifester. Trump fait une déclaration en disant, les gars, allez-y, quoi. Allez-y, on arrive. C'est littéralement ce qu'il a déclaré. Et il vient pas et les Iraniens se font massacrer. On peut y voir une manière de se racheter vis-à-vis du peuple iranien qui l'avait incité à se soulever en janvier. Ça, c'est un fait. Il veut prouver qu'il est effectivement prêt aujourd'hui à les aider. Mais il y a évidemment d'autres mobiles plus profonds qui renvoient à la problématique nucléaire et balistique, considérée comme une menace existentielle par Israël, et un signal stratégique adressé également à la Chine. quel message à la Chine? Voilà, il y a Togmar qui est d'accord avec ça, qui nous dit à l'instant même, son objectif est celui des Américains, des États-Unis. Le seul, c'est d'endiguer la Chine. Donc lequel, demande le Parisien à M. Rigoulet? Il s'agit de faire une démonstration de la puissance militaire américaine dans la perspective d'un conflit potentiel à Taïwan. Focus, j'arrive sur le prix Nobel de la paix. C'est aussi un moyen, comme il l'a fait au Venezuela, d'hypothéquer les importations d'or noir iranien vers la Chine. Ah! Alors là, on a des infos intéressantes, je trouve. Dans la mesure où Pékin achète près de 90% du pétrole iranien. Ah bah ouais, dites-moi ça. Il s'agit de faire une démonstration de la puissance militaire américaine dans la perspective d'un conflit potentiel à Taïwan. C'est aussi un moyen, comme il l'a fait au Venezuela, d'hypothéquer les importations d'or noir iranien vers la Chine, dans la mesure où Pékin achète près de 90% du pétrole iranien. Ok. Mais attention, me dit Abricus, ça ne représente que 15% de l'approvisionnement de la Chine. Il ne s'agit pas à proprement parler de faire main basse sur ce pétrole, car les États-Unis sont désormais premiers producteurs mondiaux et n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Hein, drill, baby drill. Voilà. Mais Trump cherche à pénaliser l'accès de l'or noir aux Chinois. Oui, que 15%, c'est vrai que c'est beaucoup. Ok. Alors là, je trouve que cet article est très intéressant. Vous voyez, ça éclaire un petit peu, on met un peu de sens, de signification, enfin, de théorie, parce que personne n'est dans la tête de Trump. Là, ce sont des théories, hein, mais c'est très intéressant. Est-ce que cette guerre va durer? Il n'est pas prévu qu'elle s'achève en quelques jours, vu l'ampleur des opérations en cours potentiellement planifiées sur plusieurs semaines. Les répliques iraniennes ont déjà débuté avec des frappes en Arabie Saoudite à Bahreïn, qui accueille le siège de la 5e flotte américaine au Qatar, où se situe la principale base américaine au Moyen-Orient. Les missiles commencent à pleuvoir partout dans la région. Nico Prady dit « c'est pas une guerre ». Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel mot tu veux que j'utilise? Nico Prady, ça m'intéresse premier degré comme débat. Nico me dit « c'est pas une guerre ». Parce que là, la question du Parisien, c'est « cette guerre risque-t-elle de durer ?» Camille me dit que ce conflit va durer 4 semaines. Quel mot tu voudrais utiliser? Une opération spéciale? Une agression, tu dis, Vogun? Une agression, me dit de quelle terre? Salut Sam, est-ce qu'on sait combien représentait le Venezuela dans la part du pétrole chinois? J'ai pas l'info. Contrairement à certains, moi quand j'ai pas l'info, j'ai pas l'info. Certains, ils ont pas l'info, mais ils ont l'info. Certains, ils ont pas l'info, mais ils ont l'info. Moi quand j'ai pas l'info, j'ai pas l'info. Ok. Et le peuple iranien dans tout ça? Dans un scénario idéal, le régime devrait tomber et laisser apparaître un acteur. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça, c'est intéressant. Et le peuple iranien dans tout ça, dans un scénario idéal, le régime devrait tomber et laisser apparaître un acteur transitionnel avec un horizon démocratique. Ça, ce serait formidable, vous imaginez? Qui m'écrit là? Ah. C'est du travail. C'est... Non. Non, il n'a pas mon téléphone, le monsieur là. Non, non. On s'écrit par tweet. On échange par X, nous. Pourquoi ce serait formidable? Tu déconnes ou quoi? Bah, écoute, Asto, écoute bien. Dans un scénario idéal, le régime devrait tomber. Bah, c'est une dictature, c'est une dictature islamique. Et laisser apparaître un acteur transitionnel avec un horizon démocratique. Bah, c'est cool quand même, non? Ça, c'est le scénario idéal. J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer. Mais c'est rarement ce qui se passe, voilà. Hein, en tout cas, dans un premier temps, l'Iran était un pays sismique, tant sur le plan tellurique que géopolitique, qui touchait, c'est l'assurance de secousses potentiellement énormes dans les pays qui l'entourent. Avec un risque de chaos similaire à ce qui s'est passé en Irak, mais à un niveau XXL. Pop, 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 pop. La dernière phrase, ok. Le poids d'anxiété de la dernière phrase. Y toucher, c'est l'assurance de secousses potentiellement énormes dans les pays qui l'entourent. Avec un risque de chaos similaire à ce qui s'est passé en Irak, mais au niveau XXL. Ok. Ok. La dernière phrase, elle fait un peu peur, me dit Nanouchon. Oui, j'avoue. Allez, je remercie les subs et j'enchaîne. Lusmosi, merci pour le troisième mois. Grenouille Swat pour le dixième mois. Patate cuite des îles pour le douzième mois. J'espère que tu vas bien. Le thermos, ça y est. Bravo. Wolfie Dubois, merci pour le soutien. Crompi Debi pour le onzième mois. Mich Lebarge, comment vas-tu? Merci pour le prime. Salamèche pour le sixième mois. Oliska pour le prime. Balèze 88 pour le 19e mois. Ola Ishbin pour le prime. Samiel MP FR pour le prime. Urto Stavounet pour l'abonnement que tu as offert à la commu. Merci mon ami. Xintin 92, merci à toi. Allez, je vous lis puis on enchaîne. Docteur Jos pose la question que beaucoup se posent, donc je la pose. Ici, on est moins pour affirmer des choses que pour s'interroger, quoi. Docteur Jos, d'un côté, c'est génial de libérer ces gens d'un régime comme le régime iranien, mais en même temps, de quel droit un pays comme les États-Unis va abattre un chef d'État? Dans les éditos demain matin, parce que demain matin, on va consacrer une part importante de la revue de presse à l'Iran. Et vous verrez que demain matin, on va lire des éditos, c'est-à-dire des articles où des journalistes donnent leur avis, et vous allez avoir des éditos qui vont dire « Génial! Merci Donald Trump hein !» Et vous allez avoir des éditos qui vont s'interroger en disant « Ouais, mais ok, j'entends, mais... » On aura ce débat demain. Hunting and Fishing, merci. Merci. Raph, tu sais, moi je suis pas grand chose, moi, mais tu poses des questions, je réponds avec mes petits moyens. Raph dit, Samuel, je n'ai pas compris quel est le réel enjeu de cette guerre. Qu'est-ce qui menaçait Israël et les États-Unis et donc les morts engendrées vont-elles valoir le coup? Alors, cette phrase, elle est atroce, que les morts engendrées vont valoir le coup. La menace dite existentielle, merci Sickness, la menace dite existentielle qui menaçait Israël, c'est que l'Iran se dote de l'arme atomique. Ouais. L'Iran, les scientifiques iraniens ont travaillent sur un programme d'enrichissement d'uranium dont on sait que avec cette quantité d'uranium enrichi, l'objectif n'était pas de faire des centrales. Ça, on le sait, tout le monde le savait. C'était pour avoir l'arme atomique. Et donc, le discours d'Israël et de son allié américain, c'est nous ne pouvons pas laisser un pays qui a promis la destruction de l'État d'Israël se doter de l'arme atomique. Après, il y a aussi dans ce discours, il y a des gens qui vont dire, bah attends, une arme atomique, c'est pas forcément une arme qui est utilisée. Une arme atomique, c'est parfois un outil de dissuasion. Voilà, et qui vous dit que l'Iran utilisera cette arme atomique contre Israël? Hein, il y a ce discours aussi. Et puis il y a les gens qui répondent à ces gens qui disent oui, mais qui te dit que l'Iran ne l'utilisera pas? Vous voyez? C'est des discussions sans fin. Donc voilà. En tout cas, tu me demandes quel est le motif. Celui-ci est évoqué par Israël depuis toujours. Oui, le niveau d'enrichissement. Merci, Pondy. Et puis après, il y a les autres. Pour les États-Unis, alors il y a le côté allié d'Israël. Et pour les États-Unis, ben, il y a d'autres raisons qu'on vient d'évoquer à l'instant. Oui, c'est pas la quantité, c'est l'enrichissement. Vous avez raison. Merci de me corriger. Merci beaucoup. Toujours pertinentes tes réponses. Bon, pas trop, Raph, mais je fais ce que je peux. Merci, merci encore, Tartuffe. Merci, Sickness. Merci, Tartuffe. Merci à tous les deux. Pardon, je t'ai pas merci, Tartuffe. Merci beaucoup. Merci, Toto Réador. Merci à tous les trois. Pourquoi on ne parle pas du président de l'Iran? Mike, je crois que tu as posé la question tout à l'heure, ou quelqu'un d'autre, et c'est une bonne question. Il y a le président iranien, c'est un, si je ne dis pas de bêtises, c'est un rang inférieur à celui du guide de la République islamique. Si tu veux, c'est un poste qui est moins important. Le numéro un, c'est le guide de la révolution islamique. Enfin, s'ils peuvent taper l'Iran, le président, ils vont le taper aussi. Hein, puisqu'il s'agit de décapiter le régime. Peut-être qu'il est mort, je... Voilà, Clama Coquine m'explique même, voilà, vous êtes une communauté de fous, c'est même le guide de la République islamique qui sélectionne les candidats pour la présidentielle. Tu vois le niveau d'importance du poste, quoi. Merci Clément Coquine, en vrai. Vous êtes des goths, hein. On enchaîne? On enchaîne? Attends, alors, j'ai mis tout le chat en bleu, j'arrive plus à vous lire. Voilà. Je vais m'en faire un café. Quid de la position française? La Pampasse, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, je viens d'arriver, mais quid de la position française? Écoute, nous n'en avons pas encore parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un papier sur Israël qui espère vivre son dernier affrontement avec Téhéran, mais bon, je vous ai un petit peu expliqué de quoi il retournait. Et les expatriés sidérés, les étrangers qui vivent dans la région. Les expats. La crainte des Français qui vivent dans les pays de la région, notamment. Je vous lis. Hein. Je suis à Doha, me dit Palmed. Je lis. Hein. Bon, peut-être lire le. On lit peut-être l'article sur les expatriés, non? Puisqu'on parlait des Français, hein? Juste pour avoir les infos vite fait. Merci Tartuffe, merci Tartuffe. Un pote vit à Dubaï, me dit Clama Coquine, il est pilote de ligne pour une grosse compagnie aérienne. Là-bas, il entend les explosions, etc. Il n'est vraiment pas serein. La France se réserve le droit de mener les actions défensives nécessaires et proportionnées visant à neutraliser les capacités iraniennes de tirs de missiles et de drones en cas de menace, selon un communiqué de l'Elysée. Merci Alban. On allait le lire un peu plus tard dans la soirée, mais merci à tous ceux qui me donnent cette info. Alors lisons un petit peu les expatriés, là. Ça me paraît intéressant. De Doha à Dubaï, les expatriés sidérés. C'est toute la région du Golfe qui est aujourd'hui déstabilisée. Il était 5h ce matin, ce samedi matin à Doha, au Qatar, quand Fabienne a reçu un message de l'ambassade, la provenant de l'imminence des frappes sur l'Iran, aux répercussions prévisibles sur les monarchies du Golfe. Depuis, plus de 7 missiles ont été interceptés et les drones passent au-dessus de la ville, nous raconte la française. Nous avons reçu des recommandations de nous mettre dans l'abri de notre building. Non, 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 MMG, je suis toujours dans le parisien, là, regarde. C'est pour ça que je change pas le sommaire. Après, on va changer de... Salut, Undead. Bonjour Samuel, ma copine est iranienne, vit en Iran. Si tu as des questions, n'hésite pas. Undead, n'hésite pas à nous partager tes analyses sur la situation. Hein? Peu après notre conversation, un missile balistique tiré par l'Iran a touché un bâtiment de la ville, donc Doha, dégageant un important panache de fumée. À la mi-journée, des explosions avaient aussi été entendues à Riyad, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, et des bases américaines visées à Manama, Bahreïn et à Doha. Le Qatar compte environ 5000 expatriés français. Voilà. Longtemps, j'aurais pu mettre mes deux mains à couper que ça n'arriverait jamais au Qatar. C'est ce qu'on se disait tous dans notre cercle francophone, explique Fabienne, installée depuis 2001 avec son mari et ses enfants. Voilà. Mais maintenant, je crois qu'il peut se passer n'importe quoi. Depuis ce samedi matin, tous les vols internationaux sont coupés, la population est confinée dans les abris. En séjour de Ramadan, il y avait peu de monde dehors. À Doha, les grands hôtels de la ville informent les expats des possibilités de s'abriter dans des sous-sols. C'est une bonne question. Il y a OPG Bac qui dit, mais vraie question, pourquoi le champ lexical utilise toujours le terme d'expatrié et pas immigré? Est-ce que c'est parce qu'on se... place du point de vue français. Et donc, du coup, pour nous, c'est ceux qui sont partis. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, si on prend un pays comme un pays d'Afrique du Nord, par exemple, algérien au Maroc ou en Algérie, comment ils parlent des Algériens, des Marocains qui vivent en France? Est-ce qu'ils disent expat ou est-ce qu'ils disent immigré? Vraie question, hein, premier degré. Alors, bien sûr, alors, question, quelle différence entre expatrié et émigré? Il parle de diaspora, c'est vrai. Au Maroc, je sais, c'est les RME, oui. Les MRE, pardon. Marocains résidant à l'étranger, c'est un nom très précis, MRE. Marocains résidant à l'étranger, c'est vrai. Voilà. Ah, expatrié, il y a un côté temporaire, me dit quelqu'un. Ah, certains me disent, je crois que c'est l'intention de s'implanter de manière permanente ou non. Expatriés parce qu'ils sont toujours citoyens français, je crois, me dit Lulu Castagne. Alors, vous êtes très nombreux à me dire qu'expatrié, c'est parce que c'est temporaire. C'est pour souligner qu'ils vont revenir. Ok. Ok. Expatrié, c'est quelqu'un qui a un contrat français pour partir à l'étranger durant une durée limitée, me dit Lugamon. Immigré, c'est quelqu'un qui trouve son travail sur place et qui n'a pas l'intention de revenir. Ok. Ok. Merci pour ce débat, c'est intéressant. Revenons à nos expatriés, donc. En séjour de Ramadan, il y a peu de monde dehors, ok, ça je l'ai lu. À Doha, les grands hôtels de la ville informent les expats des possibilités de s'abriter dans les sous-sols. La famille dont on parlait avec Fabienne là n'envisage pas de rentrer en France dans l'immédiat. Donc on voit effectivement que même si la famille est là depuis 2001, les liens avec la France sont toujours très forts. Sauf évacuation décidée par les autorités, on est dans l'expectative car on se dit qu'il y a autant de chances que les choses se calment que ce soit l'escalade. Alors, si Cyrine, moi je vous savez, là, je suis là pour échanger avec vous tous, hein, et de mettre face à face des conceptions qui sont parfois opposées, mais vous voyez, on arrive à en débattre de façon chill, alors qu'on est sur un sujet qui est l'immigration qui est parfois sensible. Si Cyrine dit par exemple, c'est faux. Les immigrés maghrébins, souvent, ont l'intention de repartir. C'est juste un prisme pays pauvre, pays riche. Et je trouve que la note de Sissi Sourine est intéressante aussi. C'est intéressant ce débat. Mais Yann me dit les expatriés sont officiellement en détachement, ils n'ont pas le même statut, c'est pas un immigré. Ok. Ok. À Dubaï, parce qu'il y a eu des frappes à Dubaï, non? À Dubaï? L'aéroport international est totalement à l'arrêt depuis la fin de l'après-midi. Un hôtel situé sur l'emblématique île artificielle Palm a été touché. Plusieurs détonations entendues. Alicia Benet, DRH, qui préside le French Social Club, qui vit en face de l'île, dans le quartier d'Al Sufu, a dit que la situation a beaucoup changé depuis ce matin. Les familles se sont mises à l'abri en restant loin des fenêtres. Il faut savoir que le pays dispose d'un bouclier antimissile qui fonctionne bien, antimissile, et que ce ne sont que les débris qui tombent au sol. Assure l'expatrié. Les entreprises françaises ont commencé à envoyer des messages à leurs salariés pour organiser le télétravail ce lundi, précise la DRH. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas beaucoup de copains expats, moi, mais j'en ai un très bon, très proche. Et lui, il est expatrié pour le coup, et pour le coup, c'est vrai qu'il a un statut particulier, c'est-à-dire qu'il a un contrat de travail avec une entreprise française, mais depuis très longtemps. Et il vit. Depuis longtemps à l'étranger, mais il a un contrat de travail avec une entreprise française. Mais il vit, je ne donne pas plus de précision parce que je n'ai pas exposé ce copain, mais il vit à l'étranger depuis. Non, c'est pas pour le pétrole. Il vit à l'étranger depuis 25 ans. Mais il a un contrat de travail avec une boîte française. Et du coup, et il cotise en France pour sa retraite, vous voyez, donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être le contrat de travail. Non, c'est pas. Cherchez pas des secteurs problématiques. Non, c'est il bosse dans une boîte tout à fait normale. C'est pas de l'armement, c'est pas du pétrole. Il n'y a pas que des boîtes françaises dans tous les sujets. Non, c'est... non, non, je le précise pas parce que c'est pas parce qu'il bosse pour une boîte problématique, il bosse pour une boîte qui est tout à fait OK. C'est juste que je lui ai pas forcément demandé l'autorisation d'en parler, quoi. Il est toujours français, oui, c'est ça, ouais. Et c'est un mec super d'ailleurs. Ok. Ah! On parlait de la France. Les forces françaises dans le Golfe, cible potentielle. L'état-major des armées dit avoir adapté son dispositif militaire dans le Golfe arabo-persique à la menace de frappes de représailles brandies par le régime iranien ce samedi. Déployés aux Émirats arabes unis, en Jordanie, au Qatar, au Liban, à Djibouti et dans une moindre mesure en Irak, les forces françaises pourraient être les victimes collatérales d'une guerre dans laquelle aujourd'hui la France n'est pas impliquée. Ok. Les forces françaises pourraient être les victimes collatérales d'une guerre dans laquelle aujourd'hui la France n'est pas impliquée. Nous n'avons pas participé aux frappes, a martelé Emmanuel Macron dans un communiqué à la mi-journée. L'escalade en cours est dangereuse pour nous, elle doit cesser. Ok. Un discours prudent, même s'il est sans ambiguïté, pour dénoncer la disqualification du régime islamique, suffisant pour garantir la sécurité des quelques 5 000 soldats tricolores positionnés dans la région. Point d'interrogation. Je ne crois pas que les Iraniens prendront le risque de frapper volontairement la France à ce stade, mais leurs missiles sont peut-être suffisamment sophistiqués et précis. Ah non, question. Mais leurs missiles sont-ils? Merci de Real Jonash. Mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien chez moi. Vous inquiétez pas. Vous savez, il faut savoir séparer l'agitation artificielle des réseaux sociaux et la vraie vie. Ce qui se passe là-bas n'est pas la vraie vie. Alors, vous inquiétez vraiment pas pour moi. Leurs missiles sont-ils suffisamment sophistiqués et précis pour écarter le danger d'une frappe involontaire? C'est la question que se pose le député LR Jean-Louis Thiraud, qui a été ancien ministre aux armées. La base aérienne projetée au Levant, dite H5, où Emmanuel Macron a réveillonné en décembre 2023 avec les 350 soldats français engagés dans l'opération Chammal, est la plus vulnérable et pour cause, au contact des forces américaines sur le site, elle est une cible potentielle. Du coup, sur cette base, les moyens de défense sol-air ont été renforcés. Voilà, missiles Mistral de courte portée, batterie Mamba, qui permettent d'intercepter drones et missiles jusqu'à 100 km de distance. Et en temps normal, vous avez 4 Rafales qui opèrent depuis cette base. Sans doute d'autres avions qui sont arrivés sur place. Ok. Et là, on a un autre article intéressant. Alors, moi, je voudrais saluer le Parisien quand même, parce que vous voyez, le Parisien, c'est un journal très particulier. Le Parisien, c'est un journal national, c'est un journal qui parle de l'info en France. C'est un journal régional, avec des pages locales sur la vie à Paris, la vie dans les Yvelines, la vie dans les Hauts-de-Seine, le Parisien, et tous les départements de l'Île-de-France. Et c'est un journal qui consacre ce matin 7 pages au conflit iranien. Voilà, c'est. Vous connaissez mon attachement à la presse écrite, j'aime tous les journaux que je lis le matin, sans exception, même s'ils sont très très différents. Mais je trouve que voilà, ça fait plaisir, quoi. Et vous avez vu les articles qu'on a lus, bah, c'est plutôt de l'info de qualité, quoi. Je trouve que c'est plutôt bien foutu, quoi. Et là, on a un article justement sur la réaction des Iraniens vivant en France, par exemple. C'est quand même un dossier qui est assez complet, je trouve. On est les seuls à être contents d'avoir notre pays natal. On est les seuls à être contents de voir notre pays natal frappé. Voilà, ce sont des mots entendus en France. Donc le Parisien raconte, article de Kiara Carrière, nous sommes allés à la rencontre de la diaspora iranienne, qui n'aura rien des événements. Camille me dit que demain, dans Libé, il y a 10 pages sur l'Iran. Samedi. Donc hier, les Iraniens du monde entier se lèvent avec une nouvelle que beaucoup attendaient. Ma mère m'a réveillé ce matin en m'appelant d'Iran. Elle m'a dit « C'est le début de la guerre », témoigne Tirdad, Iranien de 26 ans exilé à Paris. Les États-Unis ont frappé l'Iran. Trump avait donné sa parole, c'est chose faite. Après les massacres de sans doute de dizaines de milliers d'Iraniens début janvier, nombre d'entre eux espéraient une intervention extérieure en vue d'une chute du régime. Depuis la révolution islamique de 1979, une frange de la population a quitté l'Iran dans l'espoir d'une vie meilleure. Peut-être que vous-même, vous connaissez des Iraniens qui vivent en France. Des diasporas sont installées un peu partout dans le monde. À Paris, on en retrouve une grande partie dans le 15e arrondissement, près de Beaugrenelle. Restaurants, épiceries, librairies. Ils ont essayé de ramener un peu de leur Iran. Je crois qu'à une époque, il y avait beaucoup de chauffeurs de taxi iraniens à Paris. Après la révolution islamique de 1979, vous aviez à Paris notamment des chauffeurs de taxi qui parfois étaient d'anciens scientifiques ou enfin, des gens qui avaient complètement changé de métier et qui étaient devenus chauffeurs de taxi. Mon prof de physique chimie était iranien, me dit Karaftaftor. Karaftator, pardon. Beaucoup habitent le quartier et y ont leurs habitudes. Nous sommes allés à leur rencontre hier, dit le Parisien. Que pensent réellement ces personnes qui sont loin de leur terre natale? Les avis divergent. Le chat, non. Certains luttent pour le retour du prince Zera Pahlavi. Moi, j'en étais sûr. Non, pas sur ce sujet. Les gars, pas sur ce sujet. On parle de l'Iran. Certains luttent pour le retour du prince Reza Pahlavi, donc c'est le fils de l'ancien Shah. Fils aîné de Mohamed Reza Pahlavi, dernier Shah d'Iran. Reza. J'ai dit Zera comme Zerator? Le streamer. Reza, ouais. Beaucoup ont peur de parler. Hein? Donc certains pensent qu'un dirigeant venu de l'intérieur serait préférable au fils du Shah d'Iran qui est en exil, lui. Beaucoup ont peur de parler pour eux, pour leurs proches restés en Iran, peur de dire ce qu'ils pensent vraiment. Eux-mêmes ne sont plus sûrs de quoi penser ou en quoi croire encore. Dans cette rue aux mille saveurs, nous croisons Tirdad, 26 ans, il a quitté l'Iran il y a 10 ans, il n'y est jamais retourné. J'ai choisi mon chemin contre ce régime, j'ai déjà reçu des menaces. Je crois qu'on est les seuls à être contents d'avoir notre pays natal frappé. Je crois qu'on est les seuls à voir notre pays natal frappé. C'est lui qui dit ça. On en avait besoin. On reste en totale solidarité avec le peuple iranien. C'est le moment, c'est la renaissance du Moyen-Orient. J'ai toujours gardé espoir. Les gens qui, depuis 1h41, écrivent dans le chat « Le fils du Shah d'Iran, c'est le chaton », je ne vous lirai pas. Cette blague est en boucle depuis 1h41. Alors, je lis une fois. Non, ça n'est pas drôle.
Quelle indignité.
Non. Ça permet de pas déprimer. Alors, ok, d'accord. Celui qui avait laissé toute sa famille derrière lui pour rejoindre seul la France développe sa pensée. C'est mon devoir de me lever, d'être la voix du peuple, de ne pas avoir peur. On a le chat, quoi qu'il arrive, ce sera mieux que l'islam radical. Alors lui, voilà, il pense que ça va être le chat. On a le chat, quoi qu'il arrive, ce sera mieux que l'islam radical. Démocratie et religion, ça ne colle pas. Le massacre que mon pays a subi m'a encore plus donné de courage. Ce qu'a fait Trump est un acte historique, dit-il. Mon peuple sait quoi faire aujourd'hui, ils ont attendu ce jour toute leur vie, conclut le jeune exilé. Shamine, 32 ans, a également grandi en Iran. Elle est arrivée en France il y a 7 ans, elle se dit satisfaite des frappes de ce samedi matin, elle se dit satisfaite des frappes. Si ça peut enfin changer le régime, je suis heureuse, mais je m'inquiète pour tous les Iraniens qui attendent leur liberté, se désole la jeune femme. Sur place, ils sont contents, ils n'ont pas peur, c'est nous qui sommes loin, qui avons peur pour eux. Je crains les morts civiles. Tôt ou tard, les mollahs devront partir. La seule solution pour le peuple, c'est la venue du prince Reza Pahlavi. Elle aussi, elle pense que l'arrivée au pouvoir du fils de l'ancien Shah d'Iran serait la solution. Nous poussons la porte d'un restaurant typique. Voilà. Ali s'est réveillé dans la plus grande angoisse. Ne pas savoir ce qui va arriver au peuple, c'est horrible. Ces frappes ne les libéreront pas. Trump n'est là que pour ses propres intérêts. Déplore cet entrepreneur de 44 ans. Oui, tout le monde ne se réjouit pas. Deux sœurs âgées, Sarah et Shirin, se chamaillent un peu. Sarah se réjouit des attaques. C'est le seul moyen de sauver notre peuple, notre pays, résume-t-elle. Shirin, elle, désespérée, je ne vois pas comment la guerre peut sauver mon pays tant brisé. Elles sont tout de même d'accord sur un point, comme tous les autres. Elles veulent la paix pour ce pays, ce peuple qui souffre depuis 47 ans. Alors, Lugamon nous propose une lecture, mais en nous avertissant que c'est une lecture avec une simplification abusive. Deux points. Dans la diaspora iranienne, les gens de droite sont pour le retour du chat, les gens de gauche disent ni chat ni mollah. Merci, Lugamon. Non, je suis pas en privé, Shark. Coucou Samuel, j'ai voulu te follow sur X, mais tu es en privé, peux-tu m'accepter? Je suis plus en privé. Je me suis mis en privé il y a quelques semaines parce que. Vraiment, ce réseau est le réseau de la violence et du chétan. Et puis, il y a des idées qui sont quand même devenues très présentes plus que d'autres. Mais je me suis déprivé ce matin. Parce que j'avais envie de dire deux, trois trucs. Voilà. Donc, je pense que déprivatiser, voilà. Je pense que dans quelques jours, quelques semaines, je vais remettre en privé. Mais j'avais deux, trois trucs à dire. Donc là, c'est le moment d'aller me follow, là, c'est ouvert, c'est open. Tu t'es nationalisé, quoi. Oui, remarque, je me suis déprivatisé, donc je me suis nationalisé, ouais. J'avais deux, trois mails à envoyer, ouais. Mais je pense que je vais me remettre en privé dans quelques jours ou quelques semaines, donc profitez, hein. C'est intéressant ce que dit Paul. Le chat n'est pas parfait. Mais au Moyen-Orient, si tu ne remplaces pas l'ancien régime par un nouveau, tu risques l'instabilité. Regarde la différence entre la chute du régime libyen et celle du régime syrien. Gundamologue, oh, désolé. En fait, je crois que le raid est possible qu'à partir d'un certain nombre de viewers, je crois de 5 viewers, je sais pas si ça te parle. Ok. Donc voilà les amis pour les articles dans Le Monde d'hier après-midi, dans Le Parisien de ce matin, mais c'est pas tout. On va aller voir les dernières infos. On va aller voir les dernières infos, bien sûr, et on va chercher et on va rajouter des lignes à ce petit sommaire. Hein? Ah mais c'est pas terminé. Il y a le maître Gonzo qui dit Raid Shadow Legends, mais attends, mais moi je suis au début de mon stream. Hein? Non, non, mais là on fait que commencer. Tiens, on va aller voir Mediapart par exemple. Mediapart. En plus, Boubou vient de me dire qu'il a rajouté une petite émote Mediapart. Ah non, c'est pas terminé, vous êtes fous! Ah non, on commence là! J'enlève l'iPad, c'est tout. Ah non, on va aller voir on va voir ce qui s'est passé ces dernières heures. Puis on va continuer à échanger. Non, c'est un sujet trop important. Je vais me prendre un petit Coca Zéro. Pour mettre de la caféine dans le sang. Les journaux commencent à sortir. Ah oui, on va pas aller voir les journaux, Camille. Non, 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 c'est pour demain matin. Ah bah non, hey, oh. Non, on va aller voir Mediapart, par contre. Mediapart. Mediapart. Ah bah non, je vais pas lire les journaux de demain, là. Eh hey, oh, hey, je vais vous lire quoi demain, moi, sinon? Mediapart. Voilà. Ah, ouais, intéressant. On rajoute un titre. C'est quoi le titre de Mediapart? C'est intéressant. Allez, let's go. Je suis en mode flemme. Israël aux États-Unis, très bien. Et regardez, c'est tout nouveau. Comme Boubou a vu que bah, j'avais intégré Mediapart, désormais à ma revue de presse, que j'évoque assez souvent. Hop! Hop! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. L'offensive israélo-états-unienne déstabilise tout le Moyen-Orient. Mediapart. Bravo, bravo les modos, bravo Boubou. C'est quoi ça? Ça et ça. Et on y va. Incroyable. Alors. Bon, Mediapart, je suis abonné depuis longtemps, mais c'est vrai que je l'intégrais pas jusque-là, pas trop souvent, mais je me rends compte, plus j'y vais, plus je me rends compte que il y a vraiment les articles de qualité, quoi. C'est intéressant, ça. Regardez tous les articles qu'il y a. La joie teintée d'angoisse d'une large partie du peuple iranien après la mort du guide suprême. La mort du guide suprême a entraîné des manifestations enthousiastes en Iran et au sein de la diaspora, alors que le régime projetait dans le même temps les images de foules éplorées dans plusieurs villes du pays. Le contentement de voir Ramenei dans la poubelle de l'histoire côtoie l'inquiétude sur la cohésion sérieusement entamée de la société iranienne. Et là, on a un autre article qui est passionnant aussi. Le pire cauchemar des pays du Golfe Persique se réalise. Les États du Golfe Persique se trouvent entrés dans la guerre israélo-états-unienne contre l'Iran. C'est Mediapart et l'IMAC. Et de l'extension régionale est celui qu'il redoutait le plus. Le scénario de l'instabilité et de l'extension régionale est celui qu'il redoutait le plus. Même si aucun n'était allié de Téhéran. Voilà, regardez le. Là, on est sur une ligne éditoriale un petit peu différente de ce qu'on a lu jusqu'ici, quoi. Aux États-Unis, Donald Trump impose un nouveau conflit à une population réticente. Ah, une population américaine réticente. Avant l'attaque américaine et israélienne de samedi, une intervention militaire en Iran était largement impopulaire dans l'opinion outre-Atlantique. Mais pas au sein de la base trumpiste. Ah, ok. Et là, c'est des réactions des lecteurs du club de Mediapart. Moi, j'ai bien envie de lire peut-être celui sur la population d'abord, et ensuite de lire celui sur les inquiétudes des pays du Golfe. Je trouve ça assez intéressant. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Merci Mediapart. La joie teintée d'angoisse d'une large partie du peuple iranien après la mort du guide suprême. Donc, manifestation enthousiaste en Iran et à l'étranger au sein de la diaspora. Et pourtant, le régime lui projetait des images de foules éplorées dans plusieurs villes. Le son des pleurs intenses d'un présentateur, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Au début du live, vous m'avez dit, on a vu un présentateur de la télé d'État iranienne pleurer à l'antenne. Le son des pleurs intenses d'un présentateur de la télévision d'État iranienne après l'annonce de la mort d'Ali Khamenei. Pardon, je fais un petit pas de côté. Vous imaginez un présentateur sur une grande chaîne française ou sur une chaîne d'info française pleurer parce que Emmanuel Macron serait mort? Non, mais juste, je fais un petit pas de côté là. Vous imaginez? Bien sûr, tu as raison. Paul nous rappelle que l'ayatollah est une figure religieuse pour les chiites. Les chiites, ceci expliquant cela, bien sûr. Donc, le son des pleurs intenses d'un présentateur de la télévision d'État iranienne après l'annonce de la mort d'Ali Khamenei se mêle aux éclats de rire fort et enthousiaste d'un spectateur. Cette situation, mise en évidence dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, illustre parfaitement les deux réactions tout à fait divergentes que la mort du guide de la République islamique a provoqué dans la société iranienne. Un jour après la mort de Khamenei, les Iraniens et Iraniennes sont tous et toutes sous le choc de cet événement. Là, on dirait des scènes de liesse. Ah oui, c'est à Berlin, ça. Historique. Mais Habib Hossein Ifard, analyste politique iranien résident en Allemagne, confirme à Mediapart l'existence de deux pôles complètement opposés. Alors ça, c'est très intéressant. Tels que nous les observons maintenant dans les rues d'Iran. Deux pôles. Dans la soirée, quand les dirigeants américains et israéliens ont annoncé la mort de Khamenei, confirmée officiellement dans la nuit par les autorités iraniennes, les réseaux sociaux se sont remplis de vidéos montrant des cris de joie, de danse, qui saluaient la nouvelle. Sur l'une d'entre elles, on entend les sifflements enthousiastes des habitants d'un quartier d'une femme filmant avec son téléphone portable crie depuis la fenêtre de sa maison, pardon, Merci Trump. Dans une autre vidéo retentissent les cris d'habitants de la ville de Shiraz. Ils ont organisé des feux d'artifice pour célébrer la mort de Khamenei. À Mashhad, la ville natale du guide de la République islamique, les voitures klaxonnent dans les rues pour manifester leur joie. L'animateur qui comprend que ses privilèges sont bientôt finis. Ah, en Iran ! Je crois que tu parlais de moi. Ces images reflètent la colère et le soulagement des différentes couches de la population iranienne après plusieurs décennies de direction autoritaire et dictatoriale d'Ali Khamenei, période marquée par des répressions meurtrières, y compris la répression sanglante des récentes manifestations de janvier. Sur le réseau social X, Ahmed Esmaïlion, médecin, écrivain, ayant perdu son époux, son unique enfant dans l'accident de l'avion ukrainien abattu près de Téhéran par des missiles du corps des gardiens de la révolution en 2020, a eu ces mots à propos de ces manifestations de joie. « Ma haine pour Khamenei est la même que celle qui anime les manifestants dans la rue. Elle est déposée au fond de mon être et se réjouit de sa mort. » C'est bien qu'a relu Andrea Pazzoni. Le second degré, toi, c'est pas trop ta température idée préférée, je vois. Eh ben, c'est pas grave, il faut tout pour faire un monde. Carolu. Il faut tout pour faire un monde. Et moi, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Ma haine pour Khamenei est la même que celle qui anime les manifestants dans la rue. Elle est déposée au fond de mon être et se réjouit de sa mort. Il a ajouté, Khamenei meurt au fond de l'histoire. Et sois assuré que notre Iran ne retournera jamais à ton héritage. À l'extérieur des frontières de l'Iran, les Iraniens et Iraniennes expatriés dans plusieurs pays, Australie, Europe, Canada, aux États-Unis, sont descendus dans les rues de leur ville pour célébrer la mort de Khamenei. La grande majorité de la population iranienne expatriée dans le monde est composée, il faut le dire, d'opposants et d'insatisfaits qui ont quitté l'Iran après la révolution 79 en plusieurs vagues en raison des restrictions, des répressions économiques, politiques et sociales. Ah, c'est intéressant. Un mot de Reza Pahlavi, et pas de Zera Pahlavi, comme je l'ai fourché tout à l'heure, le fils du dernier roi d'Iran, exilé, devenu le leader des récentes manifestations pour la chute du régime, qui a déclaré dans un message adressé au peuple iranien qu'après la mort de Khamenei, la République islamique est pratiquement terminée et qu'elle rejoindra bientôt la poubelle de l'histoire. Dame Sonia me dit qu'une journaliste expliquait que parmi les soutiens au régime, il y a ceux qui le soutiennent par croyance, ceux qui le soutiennent par intérêt économique notamment, et ceux qui sont obligés lors de manifestations organisées, notamment les fonctionnaires. Pour Reza Alijani, militant politique iranien à Paris, les opposants et les critiques de la République islamique considèrent Khamenei comme le principal obstacle à la chute et même aux réformes au sein du système politique. Il souligne que Khamenei a des opposants en Iran jusqu'aux plus conservateurs, au sein même du gouvernement iranien. Dans l'histoire de l'Iran, d'ailleurs, il y a eu parfois les médias ont présenté parfois des dirigeants iraniens en disant c'est réformateur. Ce groupe de conservateurs, bien qu'inquiet pour le sort de la République islamique, n'est pas forcément très contrarié par son élimination. Donc on a vu des manifestations de joie, mais à l'intérieur de l'Iran, des rassemblements de partisans du gouvernement ont été organisés à Téhéran et dans plusieurs autres villes. Alors que de larges restrictions d'accès à Internet étaient en vigueur, les médias ont diffusé des images de ces rassemblements, les présentant comme la preuve du deuil de toute la nation iranienne. Mitsuhiko me dit « Il faut des élections en Iran. » Mais tu as bien conscience qu'aujourd'hui, le pouvoir est toujours aux mains de la révolution islamique. Hein. On n'est pas encore au stade... J'aimerais qu'on le soit, mais on n'est pas encore au stade d'appeler des élections et de souhaiter des élections. Le pouvoir, à ce jour, les têtes sont tombées, mais juste en dessous, il y a toute la hiérarchie de la République islamique. Je crois que c'est un peu tôt. Sauf erreur de ma part. Il y a un analyste iranien qui s'appelle Habib Hossein Ifar qui dit « Ramenei disparaît à un moment, la société iranienne subit des dommages et des faiblesses dues en grande partie à ses 36 années de règne. » La question principale est maintenant de savoir comment cette société iranienne compte surmonter ses faiblesses et sans doute ses divisions hein, qu'on est en train de constater et ce manque de vision commune pour l'avenir. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, comment tu veux qu'une vision d'avenir qui puisse se développer dans un pays où l'opposition est littéralement interdite ? Car malgré l'élimination de Ramenei de la scène politique iranienne, l'avenir du pays reste incertain. Suivant la constitution, les autorités de la République islamique ont annoncé la création d'un conseil intérimaire de direction pour gérer les affaires jusqu'à la désignation de quoi ? Du prochain guide ? Voilà. Et la transition sera notamment assurée par donc deux hommes, Ali Reza Arafi, un conservateur religieux, au titre du membre du Conseil des gardiens de la Constitution, et le président iranien, qui manifestement est toujours vivant, Massoud Pezeshkian. Et puis deux autres hommes, le chef du pouvoir judiciaire en Iran et le chef de la sécurité nationale. Alors, c'est un peu caricatural, mais il y a Rella qui dit « L'Iran vient d'être bombardé, il y en a qui se demandent si des McDonald's vont s'implanter. » C'est un peu caricatural, mais oui, je pense qu'on va un peu vite, là. Alors, il y a Amrouflar qui dit « C'est d'ailleurs hallucinant que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, demande la mise en vigilance des forces de l'ordre pour détecter toute action susceptible de troubler l'ordre public en France. » Quelqu'un dans le Figaro ? Dis-moi Camille, tu m'intrigues. Figaro me dit dans le Figaro, encore un gros dossier, tu vas pas t'ennuyer. Je m'interroge comme toi, quelle est la menace sur la sécurité en France ? Alors là, je suis totalement naïf et je suis encore à côté de la plaque. Quel est le lien entre ce qui se passe en Iran et des menaces sur la sécurité en France ? Alors, peut-être que je suis terrorisme, mais c'est pas la France qui tape l'Iran. Je vous lis. Hein. Des risques d'action terroriste en réaction, mais nous ne sommes pas impliqués, nous. Je vous lis. Hein. Macron a bien félicité. Camille, je veux que tu me dises, Camille. Camille me dit, il y a un gros dossier dans le Figaro, et bien, tu verras après la revue de presse si tu veux regarder pour demain. Dis-moi juste, c'est sur l'Iran ou c'est autre chose ? Me mets l'eau à la bouche. Je vous lis. Hein. Ce sont les États-Unis et Israël qui attaquent l'Iran et pourtant l'Iran contre-attaque vers d'autres pays. Personne n'est à l'abri, me dit Petit Bonnet. Ils ont quand même tapé une de nos bases, nous dit Ben. Ok. C'est vrai, oui, tu as raison. Tout à l'heure, on évoquait le communiqué commun de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui se disent prêts à des actions défensives proportionnées pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Ok. Ok. Moi, il y avait un autre article dans Mediapart que je trouve intéressant. Donc là, c'était les réactions du peuple iranien, peuple qui semble divisé, vous l'avez vu. Et il y a cette inquiétude des pays de la région, justement. Les États du Golfe Persique se trouvent entrés dans une guerre israélo-états-unienne. Contre l'Iran, ce scénario de l'instabilité et de l'extension régionale est celui qu'il redoutait le plus, même si aucun de ces pays n'était allié avec l'Iran. suis en train de parcourir l'article très vite. Alors pourquoi quelqu'un disait, mais il y a pourtant il y a des pays dans la région qui sont frappés alors qu'ils ne participent pas aux frappes, hein? Doha, Arabie Saoudite, Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn, etc. L'Iran affirme viser les bases militaires états-uniennes. Vous notez que Mediapart préfère utiliser le qualificatif d'états-uniens, états-uniennes plutôt qu'américaines, pour distinguer Amérique du Nord et le reste du continent américain, bien sûr. Ça fait longtemps que certains médias, même dans ma jeunesse déjà, il y avait des médias qui n'utilisaient jamais le mot américain, qui disaient toujours états-uniens, hein, pour les États-Unis. C'est le cas de Mediapart. L'Iran affirme viser les bases militaires états-uniennes disposées partout dans la péninsule arabique pour contenir la République islamique, protéger les routes commerciales et l'allié israélien. Bahreïn accueille ainsi des navires de guerre américains, enfin états-uniens, depuis 1948 et le siège de la 5e flotte de l'US Navy. Le Qatar abrite sur la base aérienne d'Al Udeid le siège du commandement militaire états-unien pour le Moyen-Orient et ses forces spéciales, des avions de combat, ainsi que la 379e force expéditionnaire aérienne. Le Koweït compte également plusieurs bases américaines. Après la mort de Ali Ramenei, les gardiens de la Révolution ont menacé la plus féroce opération offensive de l'histoire des forces armées de la République islamique d'Iran va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. Donc l'explication de l'Iran pour frapper ces pays, c'est il y a des bases américaines. Je ne regarde jamais la télé, je n'ai pas ouvert mes réseaux depuis 2 jours, me dit Volkfire. Imaginez, j'arrive sur le stream de Samuel Etienne parce que je me dis, tiens, il se passe quoi en Iran pour que ce soit une spéciale? Les Iraniens ont toujours prévenu, même quand ils ont normalisé les relations avec l'Arabie Saoudite, que si Israël et les États-Unis frappaient la République islamique, les premières cibles seraient les bases américaines dans le Golfe. En ce sens, ils ont tenu parole, explique une chercheuse. Mais, quelqu'un le soulignait, je t'ai vu, un prince qui a écrit, il y a des bases américaines, donc on tape les civils, bonne logique, mais des engins iraniens ont effectivement ciblé et touché des infrastructures civiles, des aéroports à Koweït, Bahreïn, Abu Dhabi, Dubaï, un hôtel à Dubaï, hein, l'île de Palme, un immeuble résidentiel à Bahreïn. Les frappes ont fait plusieurs blessés. Si les Émirats arabes unis sont parmi les pays les plus ciblés, c'est sans doute parce que ce sont les meilleurs alliés d'Israël dans la région. Les Émirats arabes unis et Bahreïn sont les signataires des accords d'Abraham promus par Washington pour la normalisation des relations avec Israël. Or, c'est Israël qui a lancé les premières frappes. Pour l'instant, malgré leurs avertissements, les États du Conseil de coopération du Golfe, donc les États de la région, n'ont pas répliqué à ces frappes iraniennes. Leurs ministres des Affaires étrangères se réunissaient aujourd'hui, un dimanche, pour définir la marche à suivre. Il est intéressant de voir qu'a priori, il n'y a pas eu de réplique militaire, de riposte militaire de ces pays. Peut-être pour éviter tout engrenage militaire. Fatiza Dazi Henni, qui est donc la chercheuse, si j'ai bien compris, qui est citée par le Mediapart, explique tous ces pays du Golfe avaient déployé tous les moyens diplomatiques pour essayer de convaincre Trump que cette guerre ne produirait que de la catastrophe et du chaos. Même si les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite bataillent sur d'autres dossiers, là-dessus, ils sont complètement sur la même ligne. Israël, comme l'administration Trump, veulent un changement de régime en Iran, et c'est ça qui traumatise le plus les pays du Golfe. Même s'ils n'avaient aucune sympathie pour le régime de la République islamique, ils sont toujours extrêmement hostiles à tout changement de régime. Ce qui se déroule actuellement est le scénario cauchemar que les pays du Golfe redoutaient le plus. D'autant plus que sont menacés les piliers économiques de ces pays. Hein, plusieurs de ces États, les Émirats arabes unis, ont parié sur le développement d'une économie basée sur le tourisme, On parie sur le développement d'une économie basée sur le tourisme, le transit de personnes, de biens matériels, immatériels, la finance plus ou moins légale, les technologies innovantes, mais pour attirer les visiteurs, les expatriés, merci Blist, et les investissements, il faut de la stabilité et une parfaite sécurité. Ouais. Traduisons en quelques mots, la guerre, c'est pas très bon pour le business. Et le tourisme. Merci Zakapatate. Merci Goldoralph pour les 5 abonnements offerts à la commu que j'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci Anne KS, j'avais pas vu non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sentiment. Parce que là, on parle des gouvernements et des pays. Hein. Je t'ai tout listé, Sam. Tu m'as mis un truc? Attends, Camille, tu m'as envoyé un message? Ah, c'est super. Ah, les gros titres du dossier du Figaro. Demain dans le Figaro, en avant-première, grâce à Camille. Les Iraniens célèbrent la mort de l'ayatollah. En déclenchant une nouvelle guerre contre l'Iran, Trump engage son pari le plus risqué. L'Iran aggrave son isolement en ciblant les monarchies du Golfe. On est en train d'en parler. Le nucléaire iranien au cœur. Une guerre inéluctable, les gros titres. Merci beaucoup. Incroyable. Quel commu de fou. Merci, Judas. Regardez. Là, on a parlé des gouvernements. Et maintenant, que pense la rue, que pensent les citoyens de ces pays? Le sentiment de l'opinion publique saoudienne, par exemple, a toujours été négatif en ce qui concerne l'Iran, en ce qui concerne et l'Iran et Israël. Une théorie du complot qui court la rue saoudienne affirme qu'Israël et l'Iran ont constitué un axe anti-saoudien. Théorie du complot. Un axe Israël-Iran contre l'Arabie saoudite. En tout cas, pour les Saoudiens, l'Iran et Israël, pour des raisons différentes, sont considérés comme des sources d'insécurité. Merci, Chaubert. Wow. Bon, bref, les pays de la région sont inquiets parce qu'ils estiment que on est parti pour une belle phase d'instabilité. Merci, Mediapart, pour ces deux articles. Oh, ça m'intrigue, ça. Ah, oh, j'ai envie de lire ça. Regardez, il me faisait de l'œil depuis tout à l'heure cet article. Regardez. Je ne sais pas qui est. C'est un entretien, je ne sais pas à qui on va donner la parole. Les bombardements n'entraînent jamais de changement de régime positif. On a envie de lire ça. Qui est interrogé? C'est un professeur de relations internationales américain qui s'appelle Robert Papp, qui est interrogé par Mediapart, professeur à l'Université de Chicago. Lisons. Pour Robert Papp, politiste, donc chercheur, à l'Université de Chicago, auteur du livre de référence sur les effets des attaques aériennes dans l'histoire, le tapis de bombes qui s'abat aujourd'hui sur l'Iran n'atteindra pas ses buts, même si le régime a été décapité. Alors le pape patrouille, il repart en vadrouille. Je le valide, je le valide, je le valide. Alors ce monsieur, ce chercheur, dit il n'y a pratiquement, merci Néfasme, aucune chance que les bombardements actuels engendrent un changement de régime positif en Iran. Voilà. Ce monsieur est l'auteur d'un livre de référence publié il y a maintenant 30 ans. Putain, le mec, ça fait 30 ans qu'il bosse là-dessus. Intitulé, attention, voilà l'accent, Bombing to Win, Air Power and Coercition in War. Voilà, qui se fonde sur l'étude de 33 campagnes aériennes allant du Japon, 44-45, merci, merci Mr. Chapapa, jusqu'à l'Irak en 91. Traduit en France par ce titre, Bombarder pour vaincre, puissance aérienne et coercition dans la guerre. Pour l'auteur, depuis la Première Guerre mondiale, des dizaines de tentatives ont été menées par de nombreux pays, notamment États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, Russie, afin d'utiliser la puissance aérienne pour tenter d'imposer un changement de régime. Pourtant, analyse le chercheur, ces interventions aboutissent systématiquement à deux résultats. D'abord, le régime en place reste inchangé. Certes, des dirigeants sont tués, mais ils sont remplacés par des personnes qui leur ressemblent beaucoup. C'est ce que je dis tout à l'heure. Et plus profondément, on observe une radicalisation des nouveaux dirigeants qui sont davantage agressifs et enclins à prendre des mesures plus radicales, y compris militairement. Ce sont deux scénarios auxquels il faut se préparer aujourd'hui avec cette attaque contre l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple dans l'histoire de bombardement qui ait provoqué des choses positives? pas un seul depuis la Première Guerre mondiale, insiste le chercheur, c'est-à-dire sur plus d'un siècle. Les seuls contre-exemples possibles supposent la présence de forces amies sur place, permettant... Ah oui, il parle de campagne uniquement aérienne. Parce que certains me parlent de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements sur l'Allemagne, et puis j'étais d'accord avec vous. Et je me disais, bah oui, mais en Allemagne alors. Mais là, il dit qu'il non, il faut aussi des forces terrestres. C'est ça, il dit frappe uniquement aérienne. Alors, certains évoquent le Japon, mais là, quand vous parlez du Japon, vous parlez d'Hiroshima et de Nagasaki. Là, c'est la bombe atomique, c'est autre chose. Vous êtes d'accord? Quand les États-Unis balancent Hiroshima puis Nagasaki, rappelez-vous qu'à l'époque, personne ne connaissait la bombe atomique. Le Japon comprend que il peut littéralement être rayé de la carte, quoi. Ben, c'est des bombes, bien sûr, Warwick, c'est tout à fait comparable, bien sûr. C'est absolument pas comparable. Lisons l'article. Donc, lui dit qu'il n'y a pas un seul exemple depuis la Première Guerre mondiale, voilà, quand il y a uniquement une campagne aérienne. Le fait, comme c'est le cas pour le régime iranien et davantage encore après le bain de sang commis en janvier, que ses dirigeants sont détestés par une partie importante de la population, ne change rien. Il prend l'exemple de la Libye, par exemple. Voilà. En 86, les États-Unis ont tenté d'éliminer Muammar Kadhafi, très impopulaire auprès d'une grande partie de son peuple, avec toutes les armes de précision dont disposaient les États-Unis. Cela n'a pas fonctionné, cela a radicalisé Kadhafi, conduisant les Libyens à faire même exploser le vol 103 de la Paname, l'attentat de Lockerbie, 250 civils tués. Justement, il y a un autre historien qui parle de ce qui s'est passé au Japon et en Allemagne aussi. Il y a des débats entre historiens, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Voilà, mais même des chercheurs, voilà, pas forcément d'accord avec monsieur Pape, là, l'Américain, dit, Pape a raison de dire qu'une stratégie aérienne visant à inciter les civils à se révolter contre leurs dirigeants a peu de chances de fonctionner, surtout contre les États totalitaires. Et alors, du coup, la question est posée à Pape, au chercheur américain. Bah, si ça sert à rien, si ça marche pas, pourquoi Trump a décidé de bombarder l'Iran. Et le chercheur répond, pour moi, cela est lié à des pressions politiques internes aux États-Unis. La politique étrangère belliqueuse de Trump est moins liée à une véritable stratégie géopolitique, à des équilibres internes à son propre camp. C'est vrai pour le Venezuela, c'est vrai pour le Groenland, c'est maintenant vrai pour l'Iran. Le président Trump a simplement décidé que le meilleur calcul politique pour lui, et je parle bien du meilleur calcul politique interne, Américain était de bombarder l'Iran. Intéressant. Ok. C'est peut-être des choses qu'on évoquera demain, ça. Bah voilà pour les articles qu'on a vu dans Mediapart. Moi j'ai bien envie d'aller faire un petit tour sur lemonde.fr. Qui a un fil actu, fil live qui est assez sympa avec les dernières infos. Le Figaro, on a un très bon aussi. Comme ça, on parle plus des dossiers Epstein. Ouh, on va continuer à en parler ici, t'inquiète. T'inquiète. Je note ces derniers jours, il y a un peu moins d'articles sur l'affaire Epstein. C'est bien dommage. On me dit que Trump est en train de s'adresser à la nation américaine actuellement. Ok. Vous êtes plusieurs à me dire que Trump serait en live.
controlled by an indicted narco trafficker who flooded our country with illegal immigration, including drug gang members, flooded our openly cooperated with drug gangs, and by the way, opened up the stole the wealth of that country to fund a repressive regime and also benefit adversaries such as Iran. All of that is now changing. As part of this process, the first phase, of course, is the phase we're in now, which is the stabilization phase. We did not want to see destabilization in the country. We're working very cooperatively with the interim authorities there to provide a market for the sale of the wealth of Venezuela in such a way that benefits the people, both of the United States, but also the people of Venezuela. And as a reminder to everyone, the president announced this just 2 days ago, every penny, everything they buy with the money that they're making from the oil now, Mr. President, will be bought from America. Life. And that includes everything from equipment for the oil industry to food to medicine and everything in between. The second will be a phase of recovery, and then some of these phases will overlap, and that is to have a normal economy again where the money goes to the benefit of people, not the benefit of our adversaries.
C'est pas live. Là, il y avait Marco Rubio, il y avait Jed Evans, le vice-président, et il y avait le président américain. C'était pas ça? Parce que là, c'est live, hein? Trump live. Ok. Allons voir le monde, les dernières infos. Il faisait la technique de faire semblant d'écouter. Oui, je sais. J'ai appris auprès des plus grands. Alors, vous savez qu'on va faire un titre qui va s'appeler Les dernières infos. Hop, les dernières infos. Les dernières infos. Sur l'Iran. Et on va aller voir lemonde.fr. Priorité à l'actu, comme on dit sur les chaînes info. Ok, on va mettre le monde, ça ira très bien. Hop, hop, voilà. Le monde 2, oui c'est ça. Moquez-vous des vieux. Hop, ici. Alors le fil, on va le trouver. Bah là, c'est le fil, ça ou pas? Live, voilà, c'est ça, ce qu'ils appellent le live. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, mais vous êtes tellement à la pointe de l'actu, se disent prêts à des actions défensives proportionnées pour détruire les capacités militaires d'Iran. Ça veut dire quoi exactement? Je me posais la question. C'est pour protéger les forces américaines dans la région? Effectivement, vous aviez raison, hein. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet de signaler aux services de renseignement. C'est pour protéger les... On va se pencher là-dessus, c'est une vraie question que je me pose. Défense de nos bases dans la région, oui, c'est ce que je pense. C'est ça, hein. En tout cas, le ministre de l'Intérieur français a demandé au préfet de signaler aux services de renseignement toute action d'influence ou de déstabilisation en lien avec ce conflit. Influence ou déstabilisation. Les forces de sécurité intérieure mises en vigilance. Une base française a été touchée. Ok, je comprends. On en sait un peu plus sur l'histoire des inquiétudes en France, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je me posais ces questions tout à l'heure. Par précaution à l'égard des répercussions possibles sur notre territoire français. Des frappes, le ministre de l'Intérieur a fait parvenir samedi au préfet, au directeur de la police, de la gendarmerie et de la sécurité intérieure un pigeon voyageur demandant la mise en vigilance des forces de l'ordre pour détecter toute action susceptible de troubler l'ordre public. Le document fait état de plusieurs points d'attention, le renforcement de la sécurité autour des représentations diplomatiques, donc les ambassades, de certains points d'intérêt des parties impliquées, okay, mais aussi autour des manifestations organisées par la communauté iranienne en France. Ok. Le ministre de l'Intérieur souligne qu'une partie de la communauté iranienne en France continue en effet de soutenir le peuple iranien par des manifestations. Une attention soutenue en termes de sécurisation devra être portée à ces rassemblements, ok, donc c'est un peu plus clair. ainsi qu'aux autres manifestations en lien avec la situation internationale. Ces dernières pouvant être source de troubles à l'ordre public. C'est intéressant. Alors que moi, j'ai toutes ces infos, je les avais pas. Hein. J'ai pas changé le sommaire. Wop, hop, hop, vous êtes des monstres. Merci. C'est vachement intéressant. Alors que plusieurs milliers d'Iraniens ont manifesté dimanche à Paris, entre les places de la Bastille et des pyramides contre la République islamique, un petit rassemblement d'une centaine de personnes a aussi lieu place de la République. Appelé par l'Union pour la reconstruction communiste, un groupuscule fondé en 2024 qui se présente comme marxiste, léniniste et anti-impérialiste. Le public très clairsemé se divisait en deux. D'un côté, les groupuscules d'extrême gauche brandissant des drapeaux palestiniens qui prenaient soin d'expliquer qu'ils ne soutenaient pas le régime de la République islamique, mais que les États-Unis et Israël n'avaient pas à se substituer au peuple iranien en menant une guerre sans légitimité internationale et de nature impérialiste. De l'autre, des hommes majoritairement jeunes, de noirs vêtus, au visage masqué par des cache-cols ou des keffiers, qui distribuaient des drapeaux iraniens. Merci Bliss. En nombre, certains d'entre eux exhibaient des portraits des deux guides suprêmes de la République islamique, donc des soutiens du régime, hein, Khomeini et Khamenei. Le Monde a tenté de les interroger avant d'être fermement invité à quitter les lieux. Quand les journalistes sont chassés d'un truc, ce ne sont pas très 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 bons. Hein. L'un d'entre eux, se présentant comme un membre de la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, est venu expliquer au micro que le peuple iranien est aujourd'hui uni autour de l'armée et du régime. Le peuple iranien est uni aujourd'hui autour de l'armée et du régime? Ok. Ok. Ok, donc là je comprends mieux des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. Ok, ok. Donc, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de signaler immédiatement au service de renseignement toute action d'influence ou de déstabilisation en lien avec ce conflit. A fortiori, si celle-ci devait revêtir un caractère d'action violente. Un procès qui vient de s'achever, bon, encore un truc où je n'étais pas au courant, il y a trop d'infos. Le procès qui vient de s'achever de la traductrice iranienne Mahdieh Esfandiari et de quatre hommes, donc en France, hein, tous condamnés à des peines de prison, y compris ferme, pour apologie de terrorisme, provocation à des actes de terrorisme et injures publiques en ligne en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion dans le cadre d'une association de malfaiteurs, montrent que Téhéran dispose de relais peu nombreux mais actifs sur le sol français. Des agents de l'Iran en France. Ces cinq personnes, la condamnée, avaient diffusé sur diverses plateformes des messages faisant l'apologie du massacre du 7 octobre 2023 commis par le Hamas en Israël, et avait appelé à des actions, des actes violents, merci beaucoup à Amroufla, contre la communauté juive en France. Cette capacité d'ingérence iranienne a été confirmée par les services de renseignement intérieur il y a quelques mois déjà. C'est vachement intéressant. Si on remonte un peu dans le temps, un projet d'attentat à la bombe visant les moudjahidines du peuple iranien, coordonné par un diplomate iranien en poste à Vienne, avait été déjoué in extremis à Villepinte en Seine-Saint-Denis en 2018. Bon, ça remonte un petit peu, mais... Et puis, le Monde rappelle que Téhéran a mené des actions terroristes sur le sol européen et français en particulier, notamment par l'entremise de son réseau diplomatique. Alors, je fais amende honorable, parce que tout à l'heure, moi, je vous disais un peu naïvement, mais je comprends pas trop pourquoi le ministre de l'Intérieur appelle les services de sécurité à faire hyper attention dans les prochains jours. Et en fait, quand tu lis ces quelques infos, tu dis « Ok, d'accord, ouais, y a un truc ». Il n'est pas non plus à exclure des actes radicalisés et isolés visant la communauté juive, même si l'idéologie de l'organisation État islamique est farouchement anti-chiite et donc peu susceptible de déplorer la mort d'Ali Khamenei. Le président du CRIF estime que des cellules dormantes iraniennes en Europe pourraient passer à l'acte à tout moment contre les cibles molles comme les juifs. Et l'actualité peut galvaniser un antisémitisme local déjà virulent. Non, pas anti-chiite, anti-chiite. Ok. Bon, bah déjà, cette, cette menace de trouble à l'ordre public, notamment là, sur laquelle je m'interrogeais, elle est un peu plus matérialisée, quoi. Merci Dark Legend. Merci Louis Délire pour ton message. Merci Arlissa. Merci. 21h45, de nombreuses explosions entendues dans le ciel de Jérusalem. Déclaration de... Qui est Pedro Sanchez? Premier ministre espagnol. On peut être contre un régime odieux et en même temps contre une intervention militaire injustifiée et dangereuse. Alors ça, c'est très intéressant. On peut être contre un régime odieux et en même temps contre une intervention militaire injustifiée et dangereuse. Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol. Réaction, on frappe. Voilà. Je lance une nouvelle fois un appel à une désescalade immédiate, au respect du droit international, à la reprise urgente du dialogue. L'Espagne sera présente, l'Europe doit l'être aussi. Effectivement, putain, vous êtes trop fort. Le chat me le disait, Donald Trump dit prévoit une opération d'au moins 4 semaines. On s'attend à des pertes, a-t-il déclaré le président américain, après la mort de 3 militaires américains dans l'opération contre l'Iran. Dans quelles circonstances sont-ils morts? J'ai pas les infos. Et en France, chez nous, dis-moi, Blist, Blist, Sam, as-tu vu ma question? Est-ce que tu peux me dire, si tu peux juste me dire, si tu ne réponds pas intentionnellement, tu l'as juste simplement manqué. Alors, vous êtes 4388, Bliss. Parfois, je rate des trucs dans le chat. Fais voir ton historique. Ah oui, je fais moins de live gaming en ce moment. Bliss, il me dit, mais pourquoi tu fais vraiment plus de live gaming? Pourquoi tu te... Je comprends la question. Hein. Pourquoi tu fais pas juste l'info le matin et le soir tu reviens au gaming? Bah, je trouve que l'actu, elle est trop énorme en ce moment. Il y a des, il y a, je trouve que l'actu est tellement, tellement énorme en ce moment que bah du coup, il y a mon ADN de journaliste qui reprend un peu le dessus là. Mais je suis en manque, hein, ça me gratte hein, de jouer aux jeux vidéo. Mais vous voyez, ce soir par exemple, je me suis posé la question aujourd'hui, hein, tiens, est-ce que je ferais pas un peu de jeux vidéo ce soir? Est-ce que je ferais pas un petit peu de Kern par exemple, le jeu d'escalade là que j'avais promis de lancer ou lancer un nouveau jeu quoi. Mais je me dis, mais c'est trop bizarre en fait. Je pense qu'il y a plein de gens dans le chat qui auraient pop en me disant ouais, mais alors, et l'Iran, ou alors, et la commission, et toi, tu joues, tu vois? Je sais pas. Je me dis que, voilà, j'abandonne pas du tout le jeu vidéo. Hein. C'est juste que je trouve qu'il y a Beyond Two Souls à finir. C'est juste que je trouve que l'actu, elle est folle en ce moment, et que c'est cool de se retrouver ensemble pour essayer de comprendre l'actualité ensemble. Je trouve que c'est aussi des chouettes moments. En fait, plutôt que de vivre ça de façon isolée, c'est la force de Twitch. Plutôt que de vivre ça de façon isolée, chacun devant une chaîne d'info ou devant la radio ou la télé ou son journal. Merci Blizz. Je trouve que ces actualités très anxiogènes, très dures, je trouve que de se pencher dessus ensemble, ça rend les choses, j'allais dire moins dures. Non, c'est un peu con, mais. Je sais pas, c'est moins anxiogène, je trouve. C'est pour ça que je fais ça. Mais j'oublie pas le gaming, hein. Ah, alors ça m'intéresse beaucoup. Alors vous m'en avez parlé, vous êtes trop fort. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni se disent prêts à mener des actions défensives proportionnées afin de détruire les capacités militaires iraniennes. Alors je voulais comprendre ça. Ok. Les dirigeants allemands, français et britanniques ont exprimé dimanche leur consternation vis-à-vis des attaques de missiles indiscriminées et disproportionnée lancée par l'Iran contre des pays dans la région. Oui, donc ok, donc les pays du Golfe, d'accord. Ok. Les attaques inconsidérées de l'Iran ont ciblé nos alliés proches et menacent notre personnel militaire et nos civils dans toute la région. Ok, c'est clair. Dans ce communiqué, les trois pays appellent donc l'Iran à mettre fin immédiatement à ces attaques inconsidérées. Ils se disent prêts à mener toute action défensive nécessaire et proportionnée pour détruire la capacité de l'Iran à ouais, à tirer des missiles et des drones à leur source. Donc effectivement, vous avez raison. Pardon, je tape sur ma table. Je sais que c'est pas agréable dans le micro. Ça veut bien dire que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à taper l'Iran pour empêcher le pays de frapper des pays du Golfe et des bases militaires européennes. Ok. C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Quand tu dis Métia, ils se rendent quand même compte de l'hypocrisie de leurs propos. Est-ce que tu peux développer? Premier degré, hein, juste pour comprendre. Je comprends pas tout, moi. Alors, quelqu'un dit que c'est pour protéger Israël. Alors, pour le coup, quand il parle de personnel militaire et civil dans la région, je crois pas qu'il y ait de forces françaises en Israël. Hein. On parle plutôt des pays du Golfe, là. Je vous lis, mais je suis pas sûr de l'analyse, là. Merci Dark Legend. Merci Adoki. Merci Mister Bidodams. Ok. Là, on est en train de remonter le fil des dernières infos, mais je vois notamment dans ce fil du monde des infos que vous avez évoquées tout à l'heure. Je suis content de mettre un peu plus de mots dessus, là. Parce qu'il y a des trucs que je suis en train de comprendre, du coup. Demain, je vais être bien demain matin aussi. Sur ce sujet. Ça, je pourrais répondre à quelques-unes des questions dans le chat. Alors, quelqu'un me disait, je ne savais pas quoi faire de cette question, mais quelqu'un qui m'a posé il y a quelques secondes cette question, attends, je veux te la retrouver. Excelsior, est-ce que c'est si catastrophique ce qui se passe en Iran? Est-ce que les conflits au Moyen-Orient pourraient éventuellement conduire à une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce que je peux faire de cette question? Tu vois, c'est compliqué. Et là, je vois une réponse de Kaja Kallas, qui est la vice-présidente de la Commission européenne, qui met en garde contre une escalade qui pourrait menacer la région, l'Europe et au-delà. Les attaques menées par l'Iran contre plusieurs pays du Moyen-Orient sont inexcusables, a écrit la vice-présidente de la Commission européenne. Les événements ne doivent pas conduire à une nouvelle escalade susceptible de menacer la région, donc le Proche-Orient, l'Europe et au-delà, avec des conséquences imprévisibles. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens de l'Union européenne. Là, on remonte un petit peu, il est 22h42, les infos du début de soirée, 20h33. Voilà sur les dernières frappes. Donc, Trump parle de 4 mois de frappe. Ce sont des images de manifestations en Allemagne, là. J'avais pas vu ça. Au début, on parlait de 30 morts et puis de 50 morts, de 60 morts. Le bilan du bombardement de l'école pour filles à Minab en Iran s'élève à 165 morts selon les autorités locales. Dimanche matin, l'armée israélienne dit ne pas être au courant de la frappe contre cette école. On en reparlera demain. Ah! Vous me parliez de la base française frappée, j'avais pas l'info. Une base navale à Abu Dhabi où stationnent des soldats français touchés par un projectile. Les dégâts ne sont que matériels et limités. Aucun blessé n'est à déplorer. Bon, parce que tout à l'heure, vous me parliez de cette frappe contre une base française, j'avais pas les infos. Dégâts matériels, aucun blessé à déplorer, selon Catherine Vautrin, la ministre des Armées, qui précise que la vigilance de nos forces est maximale face à une situation qui évolue d'heure en heure. Ok. Vous m'aviez pas dit ça. Tout le mec engueule le chat. Vous m'aviez pas dit ça, hein? Ok. Bah, je crois que là, on a un peu fait le tour des infos que je voulais voir ce soir. Je vais pouvoir retrouver mon amoureuse. Ha! Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mais si on t'a dit... Ah, pardon, j'ai raté des messages. Appelle à œuvrer une transition crédible en Iran. Bah oui, mais concrètement, alors ça, c'est un message qui me fait très envie, mais comment on fait une transition crédible en Iran? Ursula von der Leyen a estimé dimanche que la mort de Ali Khamenei entraînait un nouvel espoir pour le peuple iranien. Ok. Nous allons veiller à ce que l'avenir appartienne au peuple iranien. Alors, pardon, mais c'est quoi la capacité de l'Union européenne à influer sur l'avenir du peuple iranien? Je suis un peu sarcastique, mais nous devons veiller à ce que l'avenir lui appartienne et qu'il puisse le façonner. C'est très beau hein, comme phrase, mais bon, je suis un peu trop sarcastique là. Je pense que je passe trop de temps sur X en ce moment. Sur X, le réseau, hein. Réseau du chétan, nom du chétan. Bon, bah maintenant, allez, on se donne rendez-vous demain. Hein. Ça se trouve, quelle heure il est? Oh, je commence déjà à avoir des unes là. On a les unes des journaux demain là. Ton compte X n'est plus privé. Non, j'ai levé le côté privatif aujourd'hui parce que j'avais deux, trois petits messages à dire à des gens. Petite game de Valo? Non, je vais retrouver mon amoureuse. Attends, je ferme. Accueil. Eh, on les a, on les a. Allez, je vous les montre. Je vous montre les unes. Attention, on va pas lire les journaux, hein. C'est demain matin. Tu prends la sauce là? Je prends pas de sauce, moi. Je débunk. Alors, c'est parti. Le Parisien de demain. Attends, je vous mets ça bien. Bizarre ma carte d'acquis en ce moment, elle est vraiment au bout de sa vie. Hein. Le Parisien de demain. Voilà. Hop, let's go. Regardez ça. Donc le Parisien qu'on lira demain. L'opération fait vaciller le régime iranien. Le journal sur la drogue de Samuel, et après cette page, promis, j'arrête. Le redoutable raid qui a tué Ramenei. Ah, on a des infos sur le raid. Ok. Israélien, si je dis pas de bêtises. On espère que c'est la fin de 50 ans d'horreur, disent les Iraniens. Donald Trump joue la crédibilité militaire de l'Amérique, déclaration du général français Michel Yakovlev. Le détroit d'Ormuz verrouillé, 5 pages déjà. Les prix du pétrole vont-ils flamber? Le régime touché, mais pas coulé. Très intéressant. Voilà. Et après, on passe à autre chose, les municipales. Ok. Libé. Ça, c'est Libé de samedi. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis totalement accro aux journaux. Ok, let's go. L'Iran face au jour d'après. Il est beau ce titre. 9 pages de récits, d'analyse et d'interview. L'Iran plonge dans l'inconnu. Ah, ça fait trop envie. Oh là là, les images. Reviens, petit journal. Pour Netanyahou, une obsession de plus de 3 décennies. L'incertitude plane sur les cours du pétrole. Ali Khamenei, portrait, parcours. Ali Khamenei, mort d'un impitoyable gardien de la révolution. C'est un peu ce qu'on a lu dans le Parisien tout à l'heure, son parcours. Ah, ça c'est autre chose. Sur les listes RN, les candidats problématiques atteignent la centaine. Libé a commencé à éplucher les candidatures investies par le parti d'extrême droite ou estampillées Union à l'extrême droite aux élections municipales. Selon notre premier recensement, une centaine de brebis galeuses ont proféré des propos racistes, antisémites, islamophobes, sexistes, homophobes, pro-russes ou complotistes. Je vais arrêter de lire cet article parce qu'on va encore me poser des questions devant la commission de l'Assemblée nationale. Qui doit être sur l'audiovisuel public, mais en fait qui est plus une commission sur l'extrême droite en France. Donc je me le mets de côté pour une prochaine fois. Le Figaro. La chute. L'espoir d'un changement. Les Iraniens célèbrent la mort de Khamenei. Ah, je me disais comment ils ont réussi à taper Khamenei, vous avez vu? Comment un pays comme l'Iran n'arrive pas à protéger son numéro 1? L'aviation israélienne a frappé sur la base de renseignements fournis par la CIA, c'est ce que vous disiez. En déclenchant une nouvelle guerre contre l'Iran, Donald Trump engage son pari le plus risqué. L'Iran aggrave son isolement en ciblant les monarchies du Golfe. Le principal risque économique, c'est une augmentation des prix du pétrole. Le nucléaire iranien au cœur d'une guerre inéluctable. On a plein d'infos hein, demain matin. La classe peut... Vous savez, quand je vous dis, en rentrant le soir, je lis les journaux, c'est ça en fait. C'est qu'à partir de 22h, 23h, on commence à voir les journaux en fait, parce qu'ils partent à l'imprimerie et donc on a déjà les PDF, quoi. Ok, et là on part sur. C'est marrant ça. C'est où ça? C'est à Marseille? Montpellier? Rémi Gaillard, candidat à Montpellier? J'avais vu des trucs. Il y a un article sur Rémi Gaillard. C'est à Montpellier, candidat à Montpellier. La Croix, le régime vacille. Téhéran sans son guide, mais pas sans armes. Portrait d'Ali Ramanei. Est-ce qu'avec la mort du guide suprême, c'est la fin de la théocratie iranienne? La France possiblement rattrapée par le conflit iranien? Vous voyez, toutes les questions qu'on s'est posées ce soir, elles sont une des journaux ce matin. On n'a pas été très mauvais. On n'a pas été trop mauvais en vrai, hein. Toutes les questions qu'on s'est posées ce soir, on les retrouve dans les journaux demain. C'est vachement intéressant. Merci. Ça, c'est autre chose, c'est le discours sur le nucléaire demain de Macron, ça. 4 000 gros cerveaux, bah ouais, des machines. L'humanité. Voilà. Là, c'est le travail que je fais tous les soirs, ça, et tous les matins. C'est mon petit plaisir. C'est un plaisir absolu de feuilleter les journaux comme ça. Parce que là, on s'arrête sur l'Iran, mais dès qu'on avance dans les pages, vous allez voir, on va avoir plein d'articles sur plein de sujets, parfois surprenants, parfois pas surprenants. Ça va être long à tout lire. Oh, c'est mon petit plaisir, c'est ma vie. C'est ma vie. Les fauteurs de guerre. Donc là, regardez un autre regard, là. Un autre regard. Là, l'humanité montre du doigt Netanyahu et Trump. Hein. Trump en quête du prix Nobel de la guerre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de lire des journaux différents. Parce que des journaux différents, c'est des regards différents. Il y a des gens qui vont nous imposer, vous savez, une seule façon de regarder les choses, de voir les choses. Ben voilà, là, on est sur autre chose. Et donc, on lira l'UMA aussi demain. Prix Nobel de guerre. Encore un portrait de Ramenei. Un article sur Trump. Après avoir surfé sur le rejet des guerres sans fin de George W. Bush, le milliardaire est devenu un républicain comme un autre, c'est-à-dire belliciste. Il faut des abonnements pour pouvoir consulter tous les journaux. Ça te revient à beaucoup par mois. Oui, bah, je suis abonné à tous ces journaux, mais ça va en vrai en termes de budget. Voilà. On a des sous, hein, on a des sous, hein.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent. Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de
Donc
l'argent.
ça va, ça, tu vois, ça me paye les abonnements, quoi. L'opinion, journal libéral, proche des entreprises. Bah alors, t'as pas marché. Ah, parfois, l'opinion veut pas que je le capture directement. Faut que je fasse des. Et c'est le cas du Monde aussi. Ah, il bug un peu l'opinion. Ouais, c'est normal. Parfois, il y a un conflit entre. Faites pas gaffe. Il y a un conflit entre des lecteurs de journaux et puis OBS. Et il faut que je capture, en fait. Là, je pourrais pas vous montrer OBS, l'opinion. Je peux vous le lire, par contre. Si je vous fais ça, je peux vous le lire. Vous me faites confiance? Tu as accès aux journaux de demain grâce à l'abonnement. En général, les journaux, tu commences à les avoir à partir de 22h, 23h. Bon, l'opinion est un peu buggée là. Les échos, est-ce que je peux vous montrer les échos? Le journal. Bon, chaque journal en plus, il met son PDF, pas forcément au même endroit. De mars et demain, ça, ouais, let's go. Iran, le Moyen-Orient dans le brouillard de la guerre. Le monde face à un risque d'embrasement régional. La disparition d'un dirigeant ne signifie pas la fin du régime. Une campagne militaire qui pourrait durer. Le conflit fait grimper les prix du pétrole. Trump en chef de guerre au risque de déboussoler ses partisans. Demain, je vais faire des choix, hein. Il y a trop d'articles. C'est pas une appli, c'est chaque journal en fait qui est à son appli. C'est l'appli de chaque journal, c'est l'app spécifique de chaque journal. Tu lis que sur tablette ou tu gardes aussi le plaisir de la lecture papier? Je lis que sur tablette maintenant. Petite pub. On est sur autre chose. L'équipe en général, je l'ai un peu plus tard. C'est un journal qui boucle assez tard. Il n'est pas sûr que je l'ai là, l'équipe du jour. C'est un journal qui attend les derniers résultats des matchs. Donc du coup, souvent, regarde, c'est le journal de ce week-end, ça. C'est normal. L'équipe, on l'a plus tard parce qu'il attend les résultats. Et le monde, on l'a vu. Voilà les beaux gosses. C'est une façon de vous montrer un petit peu comment je travaille. Si on peut parler de travail, lire les journaux. Mais c'est le travail que je me suis inventé, c'est le travail que j'aime bien. Voilà! Merci les amis. 2h50? Waouh! Bah, j'avais pas vu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à la maison. Je vais retrouver mon amoureuse. Je vais me mettre au lit. À une époque, le soir, je rentrais, puis je regardais les petites séries pour me détendre et oublier la fureur du monde. Pas le journal, notre planète. Et maintenant, je m'endors en lisant les journaux. Comme ça, je prends de l'avance sur le lendemain matin. Voilà. Et un petit Archéro 2 entre chaque journal. Je lis Le Parisien, petit Archéro 2. Je lis Libé, petit Archéro 2, etc. Non, donc là, je vais lire jusqu'à 22, 23h, jusqu'à 1h du mat, à peu près. Je pense que je vais m'endormir sur ma tablette, le nez dessus. Voilà. Du coup, je la mets un petit peu devant sur un petit support dans mon lit. Parce que sinon, si je m'endors, je me prends la tablette sur le pif et ça fait très mal. Parce qu'elle est très grosse, c'est la grosse tablette et elle est très lourde. Faire attention. Voilà, ça fait très très mal, hein, une tablette qui tombe comme ça. Ça fait très très mal, ça. Et puis demain matin, je vais me lever vers 6h, 5h, 6h pour finir les journaux. Faire ma petite sélection, parce que je ne peux pas vous lire tout ça, bien sûr. Et c'est là qu'intervient un truc très subjectif et sur lequel je vous mets en garde toujours. La revue de presse du matin de Papy Sam, là, c'est certains journaux, ceux que j'ai choisis, parce que c'est les journaux que j'aime bien, mais je pourrais en choisir d'autres, c'est un choix subjectif. Certaines actualités, je ne peux pas vous parler de toutes les actualités. Samuel fait un choix dans les infos qu'il estime intéressantes ou qui l'intéressent lui avec ses propres biais. Deuxième subjectivité. Donc, certains médias, certaines actus, sur certaines actus, certains articles, parce que je vais les trouver certains plus intéressants que d'autres, mais c'est encore une subjectivité. Troisième subjectivité. Et en plus de ces trois subjectivités qui s'additionnent, eh bien, je vais de temps en temps vous donner mon opinion, tout en vous mettant à chaque fois bien en garde. Attention, voilà l'opinion de l'autre vieux, là, et vous en faites ce que vous voulez, parce qu'elle ne vaut rien. Donc, cette subjectivité-là, qui est propre à tous les médias et tous les émetteurs d'informations, eh bien, vous devez être prudent par rapport à ça. Voilà. Aucun média ne détient la vérité. Il y a des médias qui travaillent avec de la rigueur, d'autres avec moins de rigueur. Il y a des médias qui sont identifiables, dont les signatures sont connues. Vous savez qui interpeller quand le travail n'est pas bien fait. Voilà. Il y a des médias qui ont une histoire aussi, qui sont des rédactions, dont vous connaissez la qualité du travail dans le passé. Puis parfois, vous voyez des trucs, vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est aussi une responsabilité du citoyen d'arriver, et le travail n'est pas facile, à déterminer quelles sont les sources d'informations plus ou moins fiables en fonction de leur rigueur. D'où les questions que je pose toujours, mais d'où vient cette information? Qui nous parle? Quel est le processus d'écriture et de réflexion sur l'actualité? Mais malgré tout ça, malgré toute l'honnêteté et la rigueur du monde, bah, il y a toujours beaucoup de subjectivité dans tout ça. Et donc, c'est pour ça que je vous incite et vous invite à vous informer auprès de plusieurs médias. Donc, c'est sympa de me regarder, par exemple, mais je ne suis qu'un regard sur l'actualité. Il faut absolument aussi vous exposer à d'autres regards sur l'actualité, si vous avez du temps, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on peut se rapprocher le plus d'une information de qualité, c'est parfois en multipliant les sources. Voilà. Même ça me fait très plaisir de vous retrouver tous les matins. Des bisous. À demain matin. On va faire un raid. Merci pour tous les petits messages que je reçois en ce moment sur les petits trucs qui, en vrai, ne m'embêtent pas plus que ça. Et je pense que vous le voyez et que vous le sentez. Qui est en live? Qui est en live? Aïe, quoi le chouchou? Ok, c'est marrant. J'aime bien. J'ai une petite envie là. Je regarde, hein, mais parfois je vois quelqu'un, je me dis, ah, ça fait longtemps que je l'ai pas raid, j'ai très envie. Matrix ce jeu, il Matrix ce jeu. Écoutez, on parlait de Montpellier tout à l'heure. Ça fait. Voilà. Parfois on raid des streamers qui débutent, parfois des tout petits streamers, non pas en termes de talent, mais en termes de communauté. Parfois on stream des gens qu'on aime bien et qui ont des grosses communautés. On va dans la capitale du streaming. Il y a la Miserator là, qui est en train de regarder, de jouer à un jeu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est très intriguant. Le mec est quand même un passionné de jeux vidéo. Je suis sûr qu'on va apprendre des choses. Allez, on va voir le Zera. Let's go. J'ai hâte de savoir quand passera la prochaine Zilan et quels seront les jeux dedans. Le jeu s'appelle Indimanche, découverte de 4 jeux. C'est le Steam Fest. Bon, ça a l'air sympa. On a la date de la Zilan ? Mais depuis quand ? Je suis toujours au courant de rien, moi. On va voir Zera. Bonne soirée. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous, en tout cas ceux que vous aimez. Depuis janvier, on a la date de la Zilan ? Putain, je suis au courant de rien. Je suis nul. Ok. Des bisous. À demain matin pour la revue de presse. Et merci pour ce soir. C'était top. À très vite. Ciao, ciao. On a la date de la Zilan, mais on ne me dit jamais rien, moi.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1. Vamos nos.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?